Bonjour à tous et bienvenue sur l'apéro des papas manchots. J'ai pris les clés avec l'aide des deux autres camarades du podcast. Je suis donc aujourd'hui accompagné de Morgane.
Bonjour les gens.
Bonjour Morgane. Ça fait un petit peu...
J'aime bien ta voix sensuelle, John.
Ça fait un peu centre de rencontre de désintoxication, tu sais. Et Fabrice, alias Alter Libriste.
Salut les amis. Alors... Moi, vous me dites pas bonjour, moi je suis pas encore dans les intox.
Ah oui, bon, c'est pour ça justement, tu es sain donc on oublie. Et bonjour à toi, Fabrice. Alors, salut. On va en profiter que monsieur Deka ne soit pas là.
Hein. Et pourquoi il est pas là d'ailleurs?
Monsieur part en vacances.
Ah oui.
Ah, la chance.
Ça a eu un... Il me semble que c'est un rapport avec la route du Malte qui se passe en ce moment à Amsterdam. Il prend un petit peu de vacances en famille. Il n'était pas sûr d'avoir une connexion suffisante pour pouvoir enregistrer avec nous. Et donc, voilà. Alors, qui
donc,
c'est
t'as
qui
pas
veut
dit, t'as pas dit c'était quel épisode, du coup?
Ah oui, c'est l'épisode 9,
voilà.
Dont l'intitulé, on verra par la suite.
Et est-ce où est-ce qu'on peut nous retrouver?
Comment?
Où est-ce qu'on peut nous retrouver si on veut laisser des commentaires, des choses comme ça?
Eh bien, sur mon site, donc pour les premiers à nous écouter, du moins avec la première version, ça sera sur mon site johngecko.wordpress.com. Et par la suite, sur le site de bloglinux.ca, dans le panneau de gauche, il y a un petit raccourci où il y a marqué apéro des papas manchots et vous retrouvez tous nos épisodes dessus en attendant que le site que monsieur Deka est en cours, réussisse.
Il y a 3 ou 4 épisodes, on m'a pas dit, tiens, je te file l'URL, mais chut, dis rien.
Oui, mais entre temps, monsieur Deka a eu quelques petits soucis, donc.
On se perfectionne.
Voilà. Il fait un beau site. Parce que quelqu'un lui a dit qu'il ressemblait au début des trucs, au début des années 90. Donc...
D'accord.
Non, puis je crois qu'il avait pas trop le temps en ce moment de s'occuper de ça, et puis il a eu des problèmes pour uploader ou je sais plus quoi. Enfin, pour l'instant, il est pas tout à fait prêt. On va dire qu'il va profiter de ses vacances pour avancer là-dessus.
J'espère pas pour lui. Hein.
Et donc voilà, alors on a un programme assez chargé aujourd'hui. Hein. Le tenancier n'est pas là, donc les souris dansent. Alors, qui c'est qui veut commencer?
John, t'es le premier de la liste.
Oui, mais ça, c'est une petite discussion de... comment dire? De comble, pour combler quelques petits trous. Mais alors, pourquoi pas? Alors, vas-y. Il s'avère que après 6 mois de bon service, mon clavier et ma souris m'ont lâché en même temps.
La loi de Murphy.
Et c'est tout à fait ça, la loi de Murphy.
6 mois, c'est un peu court pour un clavier et une souris.
Mais grave.
Et ouais.
Surtout en même temps.
Et bah en même temps. Et en fait, c'est un lot que j'avais acheté. Bon, ça va que je l'avais pas acheté cher.
Garantie 6 mois.
Je sais pas, franchement, mais vu que je l'ai démonté de partout avec la rage et tout, je pense que la garantie, je peux m'asseoir dessus.
Non, mais garantie 6 mois. 6 mois un jour, il marche plus, quoi.
Ah oui.
Ouais, mais en même temps, s'il tape sur le clavier parce qu'il s'énerve qu'il perd au jeu vidéo, je suis pas étonné, hein.
Ah non, parce que figure-toi, c'est même pas des touches que j'utilise en jeu vidéo qui fonctionnent plus. Mais manque de bol, c'est les touches que j'utilise pour mon mot de passe.
Oh merde.
Donc, quand je suis en commande, voilà, Donc voilà, ça casse. Enfin, c'est un le la souris, je pense que c'est j'ai pas trop d'idées, mais je pense que ça doit être les clics-clics qui ont dû lâcher. Et puis sur le clavier, c'était un clavier à membrane et c'est le petit caoutchouc qui est juste sous la touche qui est décollé par endroit. Ce qui fait que par un moment, ça fait des faux. Comment on appelle ça? Enfin,
Contact,
ça.
faux contact,
Ouais, voilà, ça fait des faux contacts. Donc du coup, la touche n'est pas reconnue. Ou alors, elle est reconnue en comme si je restais appuyé 20 fois dessus, appuyé. Alors que je n'appuie qu'une fois. Donc voilà, je suis revenu avec un vieux clavier PS2. Pour les plus jeunes, hein, c'est la touche un petit peu ronde qui ressemble à une antenne avec plein de petits pins dessus. Hein, parce que maintenant on fait plus que
Violet, c'est la
W2.
verte ou la violette?
Ouais, c'est juste ce que j'allais dire.
C'est la violette, la verte, c'est pour la souris, il me semble.
Ouais.
Il me semble, hein, je peux me tromper. J'étais très jeune à cette époque.
Mais c'était déjà le cas au dernier épisode, non? Il y avait pas, t'avais déjà pas déjà un problème avec ta souris et ton clavier au
Bah
dernier épisode?
justement, c'est ça. Mais je voulais pas en parler, comme en plus on parlait que c'était plus autour des séries, podcasts, etc.
Recommandations.
Voilà. Tout ce qui était recommandations et puis discute avec Harry de la cabine bleue. J'ai dit bon. Et c'est donc la raison pour laquelle je ne pouvais pas prendre mes notes, Morgane. Parce que mon clavier que j'ai,
Ah
le
oui, c'est vrai que
PS2.
je t'ai pas engueulé, mais je t'ai dit putain.
Ouais. Et en fait, c'est parce que du coup, je me retrouvais avec un vieux clavier PS2, mais qui est resté mal entreposé dans un coin. Et donc, du coup, il y a des touches qui ne fonctionnent plus sur celui-là aussi. Enfin, qui fonctionnent pas très bien. Il y a des touches où je suis obligé de taper. Donc, pour la
Je
blague,
sais
j'ai
pas
deux
comment tu
claviers.
fais.
Bah, le clavier, il a plus de 10 ans, hein. C'était un
Ah ouais,
Windows
d'accord.
XP. C'était vraiment le premier XP. C'était même pas le SP1, hein, je sais pas quoi. C'était le premier XP que j'avais dessus.
Ah, donc 2001, quelque part par là. Hein.
Oh, même, je crois que c'est 2000.
2000, ouais.
Je crois. Parce que c'est le tout premier, mon tout premier
Ah là là,
PC.
dire que je connais des gens qui sont nés en 2000.
Et oui, hein. Hein, qui n'ont aucune idée de ce que la folie a été au passage de l'an 2000, le fameux bug.
Le bug de l'an 2000, tu sais que c'est genre un truc qui a rendu riche mon ancienne boîte.
Et ouais. Et il y en a que ça a
C'est.
rendu chèvre, ils étaient fous, les banques et tout. Même
Ouais,
au
bah c'est ça.
journal de TF1, ils en ont parlé du bug de l'an 2000. Tiens, d'ailleurs, il y a ton ancien patron qui t'appelle
Non, ça c'est le four qui me dit que les
Ah.
lasagnes au chèvre chaud sont prêtes.
Oh là 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 là. Hein, c'est vraiment les souris dansent, hein.
Bon, tu manges tout de suite ou tu
Non,
nous
mais.
donnes tes petites nouvelles, Morgane?
Non, ouais, alors avant de donner des nouvelles, je veux juste rebondir sur le bug de l'an 2000, parce que j'ai une anecdote intéressante.
Oui.
En fait, faut savoir que, genre, parce que du coup, c'était pile ce que le domaine d'activité où était ma boîte précédente. Les banques d'assurance, beaucoup de leurs programmes sont faits en RPG. C'est un vieux langage des années 80, c'est un truc, genre, c'est hérité des cartes perforées, alors c'est colonné, tu vois. Genre, suivant le caractère que tu mets en ligne 4 ou 8, il n'a pas du tout la même signification.
Moi j'ai fait du
Enfin, bref.
COBOL, hein. Je sais pas si tu connais un peu, mais
Ouais,
c'est un
ouais,
peu le même
ouais.
style.
Bah non, COBOL, c'est pas colonné, hein.
Si je pense. Je pense que.
Alors, pas la version du COBOL que j'ai vue. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Donc c'est des vieux programmes et en fait eux ils vendaient des trucs genre c'était le DevOps, c'était à l'heure actuelle le DevOps, le DevOps, un peu le mode actuel à la terme, le terme à la mode actuellement, excusez-moi. Ouais, bah eux ils vendaient ça pour du RPG, donc en gros ils avaient en gros le Git de l'époque. Des choses comme ça. Et du coup, quand il a fallu changer toutes les années pour passer sur 4 chiffres, bah, enfin, là où ils ont le plus décollé, c'est au bug de l'an 2000, quand il a fallu changer les années. Et donc, les banques, ils se sont dit, oula, ils nous font un système pour gérer les sources et le passage à l'euro.
Ouais, moi j'ai été embauché à peu près au passage à l'euro pour faire ce genre de truc dans les systèmes mainframe. Moi c'était pas du COBOL, c'était du Natural à la base, mais c'est un peu le même style. Et on a fait le passage à l'euro. C'était juste après le passage de deux chiffres pour l'année à quatre chiffres pour l'an 2000. Ouais, parce que en fait, les premiers informaticiens ne se sont pas posés de questions. Ils se sont dit, on est dans les années bon, allez, 60, 70. Ça sert à rien de faire sur quatre sur
Sauf que leur
quatre
programme, 70 ans après, il tourne encore.
Mais bon,
Et
et
il tourne
puis il y avait le
tellement bien
calendrier
que.
d'Himalaya. Le calendrier des Mayas a annoncé la fin en 2000. Ah, en 2012. Donc,
c'était 2012 les Mayas. Hein.
Ouais, 2012. Oui, mais bon, bah, ils se sont dit, allez, 10 ans avant la fin du monde, on va arrêter.
Hein. Okay.
Sinon, au niveau des news, ouais, je songe de plus en plus à arrêter Linux. Je voudrais vraiment essayer de plus en plus ces BSD.
Ah, d'accord. Ouais, on a eu peur que tu passes du côté obscur de la force.
Non, non, je deviens encore plus puriste.
D'accord.
Sauf que, putain, ça fait longtemps, mais ils tardent. Tu vois, autant ils ont GNOME, ils sont sur la version 3.22, tu vois, donc ça va, ils ont GNOME 3, quoi. Autant KDE 5, ils galèrent à y passer, hein. Toujours pas.
Pour, sous BSD?
Ouais. FreeBSD qui est le plus en avance, on va dire, au niveau des
paquets.
Alors déjà que je reproche à Debian d'être conservateur, mm-hmm. je pense qu'en allant faire un petit tour chez de l'autre côté, chez les mal connus, je pense que ça va être encore pire.
Sinon, tu peux aller du côté de Monsieur Stallman et de la FSF.
Eh ben, ils ont un système Triskel, non?
Ouais, mais ils sont loin d'être au KDE5, hein, je pense, dans leur système. Parce qu'il y a encore la GNUSense qui est en GNOME 2, je crois. Dans les distributions reconnues par la FSF, sont rarement en avance. La Triskel, elle est encore à peu près en avance, mais c'est du GNOME 3, mais la version fallback, c'est pas ça, c'est ça le nom? Celle qui utilise pas tous les trucs graphiques, quoi.
Ah oui, d'accord, le driver, là, ouais.
Qui n'utilise pas toutes les animations graphiques. C'est la version qui ressemble encore à GNOME 2.
Ah, c'est dans GNOME.
Dans GNOME Shell, en fait, t'as deux versions, entre guillemets. T'as une version pour ceux qui n'ont pas une super carte graphique qui ressemble encore un petit peu à GNOME 2 avec un menu, etc. Je crois que c'est.
Moi, je croyais que le menu il venait du plugin que tu mettais. T'as le plugin qui t'a rajouté le menu application.
Ça, c'est dans le 3.
Ouais, ça, c'est dans le 3, ouais. la version graphique, quoi. Effectivement, t'as plus de menu. Mais t'as une session qui s'appelle fallback, je crois que ça doit être ça. Enfin, t'as une session, si jamais ta carte graphique elle est pas reconnue ou t'as pas de grosse puissance graphique, t'as une version plus légère.
Ouais. Ok, ok.
Et sur Ubuntu, ça s'appelle GNOME Classic.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Maintenant, ils ont appelé ça GNOME Classic, il me semble, ouais.
En tout cas, sur Ubuntu, c'est comme ça qu'ils l'appellent via le. Quand on arrive sur le GDM, donc le. L'écran de connexion où on choisit
le gestionnaire. Et toi, Fabrice?
Bah moi,
Alterlibriste, je sais jamais.
Ouais, tu peux alterner, on s'en fout.
Bah moi, vu que c'est écrit Fabrice dans le pad.
Ouais, bah c'est mon prénom. Alterlibriste, c'est pour mon blog. Il y a Stretch qui est sorti il y a bientôt un mois. Et puis je vais me hâter lentement d'y passer, mais je suis encore pour l'instant sous Jesse. J'ai trois machines à passer, j'ai mon serveur, j'ai mon desktop et puis mon laptop. Mais en général, j'ai déjà une version, j'ai deux, comment dire, j'ai souvent plusieurs partitions et j'en ai déjà une qui est prête. Mais par exemple, j'ai mon imprimante qui galère à être reconnue, donc il faut que je compile des drivers, etc. Donc il faut que la session.
Des heures de plaisir.
Ouais, voilà, il faut que je sois vraiment sûr parce que je m'en sers quand même pour le boulot, etc. Donc il faut vraiment que je sois sûr que tout fonctionne avant de passer définitivement sous Stretch. Puis en plus, en début de release, comme ça, il y a encore des petits bugs qui traînent, donc je préfère attendre que tout soit ok, je vais profiter de l'été, je vais être un peu plus au calme pour pouvoir faire ça.
C'est exactement la même avec mon serveur là. Avant de le passer à Stretch, je vais attendre un petit peu parce que tous les scripts que j'utilise, je suis sûr, il n'y en a pas encore un seul qui a fait la transition.
Mm-hmm. Ok.
Alors pour les news perso,
C'était ça les news perso.
Oui.
Donc, oui, non, enfin voilà.
Il me reste
pour les news
moi.
Perso.
Ah, oui. Je ne sais pas si vous avez. Et oui. C'était dans l'intro où j'avais le clavier. Et là, il y a quelques jours, donc je me rappelle plus exactement la date quand le pad a été créé, mais c'est le jour même. J'ai vu une vidéo qui parle aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui pose pour sensibiliser à la protection de la vie privée.
Ah, mais d'accord, ok.
C'est le Rire Jaune qui a fait ça.
Ouais, je l'ai vu. Elle est vachement bien.
Et voilà, c'est un partenariat avec, donc du coup, le Rire Jaune qui est le YouTuber en question. et la CNIL et la MGEN. Donc voilà, c'est une petite vidéo sous fond humoristique pour ceux qui connaissent le rire jaune. Voilà, ça reste dans la même thématique avec en prime des vrais, comment dire, il soulève vraiment des problèmes qui deviennent de plus en plus récurrents avec Facebook, etc., avec Twitter, de manière humoristique, à sa sauce, et en prime avec une flopée de liens sur les questions concernant la vie privée, le retour, le, comment on appelle ça, la DCMA.
DCA?
Oui, la, pour quand tu appelles par exemple Google pour lui demander de retirer.
Ah
des
oui,
données.
Tu peux demander. Ouais, ouais.
Le droit à l'oubli. Fait, non, mais... Le droit à l'oubli.
Le droit à l'oubli. Ouais. Voilà, j'avais oublié le mot exact.
C'est les DM. Non, DMCA, c'est pour le piratage.
Ah. Oups. Quoique, ça va ensemble. Hein.
T411 a fermé.
Mais oui. Et une autre petite news, tu me lances sur le T411. Steam a banni, attention, roulement de tambour, 40 000 tricheurs, enfin 40 000 personnes soupçonnées de tricherie avec leur système VAC.
C'est quoi comme système ça?
C'est le système anti-triche qu'il y a sur la plupart de leurs jeux qui tournent sous source.
Mais comment ils font pour tricher?
Bah, sur Counter, je peux te répondre parce que j'ai déjà vu un GitHub et ça m'avait déjà mis hors de moi.
Ah, je crois que j'avais entendu, ou c'est peut-être toi qui en avais parlé.
Oui, j'en avais parlé vite fait. En fait, c'est genre, tu vois à travers les murs, tu mets des têtes sur les jeux de FPS, tu mets des têtes à 300 mètres avec, je sais pas, avec une arme improbable, on va dire le fusil à pompe, quoi.
Ah, avec des tirs automatiques directement dans le mille, c'est ça.
Des tirs automatiques, voilà. Okay. Et puis surtout la vision à travers les murs qui est quand même. Donc voilà. Et le plus marrant. Alors, il y en a, j'ai vu, je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. C'est sur le site Culture Geek, je crois que j'ai vu. Ils ont mis ça, en fait, ils l'ont banni le lendemain des soldes. Donc, le 6 janvier. Mm-hmm. N'importe quoi, 6 janvier, 6 juillet. Donc, au lendemain des soldes, ils ont banni les 40 000 et quelques comptes juste après les soldes. Donc, ils ont laissé les tricheurs racheter de nouveaux jeux. Ils leur ont pas laissé le temps. Et ils ont
dit. Ah, c'est bon, ça.
Donc, pour le coup, j'ai trouvé ça bon. Pour moi, qui rage assez facilement sur les jeux, tous mes problèmes de clavier, hein. Mm-hmm. 40 000 ans en moins. Bon, faut pas se leurrer, hein. Ils referont d'autres comptes et puis, ils retrouveront d'autres systèmes pour tricher et passer outre. Mais 40 000 en moins, ça fait quand même un bon ratio de tricheurs en moins sur Steam, quoi.
Ah, c'est pas négligeable. Je sais pas combien il y a d'utilisateurs, mais c'est déjà pas mal. Enfin, je pense que c'est minoritaire, mais c'est quand même pas négligeable.
Oui, mais après, selon, par exemple, si je prends Counter-Strike, qui est le, comment on va dire, l'égérie de Valve, on va dire, quand même, hein. C'est quand même
Le produit phare, quoi.
Ouais, voilà, c'est vraiment le produit phare Global Offensive. Il y a, je ne sais plus combien de millions. Moi, je suis resté parce que du coup, à force de se faire carry et de te faire descendre par des vagues de tricheurs, tu restes à un niveau bas. Bon, pour ceux qui jouent bien et qui en plus ont eu la chance de jouer en équipe en permanence, leur niveau bouge pas trop. Parce que forcément, les tricheurs, quand le gars il commence au plus bas niveau et puis qu'il monte direct au niveau le plus fort, il reste pas longtemps avant de se faire détecter, quoi. Mais moi qui est en bas niveau, c'est souvent que je m'en prenais et tout. Et des fois, tu tombes sur des vagues où des équipes, ils sont par deux, par trois. Et puis les gars, ils se cachent même pas, quoi. C'est vraiment du je t'emmerde.
Du coup, t'as essayé de rejouer depuis? T'as vu
Ah oui, oui, je joue souvent quand même.
Et du coup, c'est plus facile, enfin, tu...
Bah, disons que tu vois le niveau, tu vois quand même...
Tu augmentes un peu ton niveau, du coup.
Voilà. Enfin, disons bon, après, ça t'enlève pas ce qu'on appelle les smurfs, donc les gens qui jouent avec un double compte, ouais, qui jouent avec un deuxième compte. J'aime bien prendre cet exemple-là, c'est comme si tu, un collégien allait en primaire, un troisième, donc le dernier niveau du collège, allait en premier niveau de primaire, en CP, et puis au moment où la prof dit 2+2 à l'élève, t'as le connard de collégien qui arrive, 4! C'est un peu cet exemple-là, quoi. Donc, forcément, ceux qui commencent, ils peuvent pas progresser. Et puis, Voilà, ça bloque un peu le truc, quoi.
Parce que
S'amuser avec des gens qui n'ont pas le même niveau.
Comment dire, les tournois, ils se font par niveau?
Ouais, en fait, tu trouves des gens du même grade que toi.
D'accord.
Ça va de
Ouais, c'est le
Silver,
match ranking là.
voilà.
Mais sauf que du coup, t'as quand même des gens qui ont un
Bah,
certain niveau mais qui recommencent pour avoir un autre compte, c'est ça?
voilà. Et puis forcément, pour gagner plus de skins
Ratio.
d'armes et puis ouais le ratio, mais surtout les skins d'armes, je pense, parce que après forcément, vu que tu gagnes en permanence, après selon ton niveau de jeu, ils t'offrent des bonus, des caisses qui valent, je sais pas combien, qui valent quand tu les revends, et puis la clé vaut 2 €, mais bon, quand tu en gagnes plusieurs d'affilée puis que tu les revends d'un coup, là t'es bien content, quoi.
D'accord, c'est
Ça
bizarre.
fait, je
Mais
pense que
juste pour en revenir à ce que tu disais là sur la vidéo du rire jaune, moi je l'ai trouvé vraiment sympa parce tu sais, le rire jaune, il a un public
de
vachement,
jeunes.
bah de jeunes et pas que parce que tu vois, genre il parle quand même
Oui.
de ces trucs d'école d'Angers et tout, mais pas que, mais il a des jeunes et vraiment ça leur expliquait que ouais, attends, il peut t'arriver des problèmes quand tu poses des photos parce que un jeune qui est né dans les années 2000. Genre les prochaines élections présidentielles en 2022. Ceux qui pourront voter seront tous nés dans les années 2000, ils auront tous vécu sur les réseaux sociaux, ils auront tous mis leur vie publique sur les réseaux sociaux. Leur expliquer que bah, quand t'as des trucs compromettants, tu peux demander à Google de te les faire retirer, tu peux demander qu'on les retrouve pas, tu peux enfin affirmer ton droit à l'oubli, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'est une bonne initiative de la CNIL de s'adresser à des youtubeurs pour parler aux plus jeunes.
Et puis en plus sur le coup
Et
c'est pas
il a été
beaucoup
vraiment sur le sujet.
moralisateur.
Et c'est pas du tout moralisateur, ouais. Il le fait
Voilà.
avec humour. Ouais.
Donc voilà.
Ouais, moi je
Donc
connaissais pas, je suis allé voir, comme t'avais mis le lien, je suis allé jeter un coup d'œil. Bon bah quand t'es averti, on va dire que c'est pas des trucs nouveaux quoi. Mais ouais,
oui.
c'était. Tu peux noter l'humour.
Ouais, voilà.
Et puis bon, hein? Et puis le caméléon, bah
Ouais, ça c'était sympa. C'est
le
vrai que
coup
ça a dû te
de...
plaire.
Ouais, c'était assez marrant. Et du coup, moi, je me suis dit, moi, plus jeune, enfin, j'ai apprécié la vidéo, etc. Mais on
C'est
va
une bonne
parler d'un vieux
sensibilisation,
truc, les
c'est ça?
skyblogs, les trucs comme ça, on nous parlait pas de ça, quoi.
Ah,
Chacun mettait plus ou moins des trucs perso, voire très perso, qui peuvent servir à du social engineering. Et
un truc tout bête, je me rappelle sur un Skyblog, les gens se sont fait retrouver parce qu'ils postaient une photo où genre derrière, tu voyais genre le nom de la rue. Une autre
ouais.
photo derrière, tu voyais le numéro. Et vraiment, il y a des gens, ils se sont fait stalker comme ça par les photos. Tu laisses plein de fois plein de petits indices qui permettent de retrouver la personne.
Voilà. C'est justement ce genre de truc-là que je pensais, et le fait qu'il en parle, sachant qu'il c'est pas un petit youtubeur, on va dire. C'est quelqu'un qui est souvent dans les tendances de YouTube. Il a comment on appelle ça? On va dire une fanbase, j'aime pas trop ce mot, mais
Un
on va dire c'est ce
public,
qui
un
qualifie le
public.
plus. Voilà, il a vraiment un public qui suit toutes
Ouais,
ses vidéos et qui peuvent
il a plus
être.
du million d'abonnés et les vidéos font 2-3 millions de vues. Hein.
Voilà. Donc c'est quoi? C'est bien de la CNIL et de la MGEN d'avoir fait appel. Alors je sais pas s'ils ont fait appel à d'autres youtubeurs. Lui, c'est parce que je le suis. Et bah je les ai vus. Je sais pas s'ils ont fait appel à d'autres. Mais j'ai trouvé ça bien malin de passer par YouTube. Parce que maintenant, aujourd'hui,
Bah ouais. Les jeunes, ils regardent ça.
voilà, c'est limite où on va passer à des forfaits. Je sais que c'est le cas à l'étranger, où on te vend des forfaits en te disant tu pourras aller sur Facebook et YouTube.
Ouais, il y a eu un moment où SFR faisait ça aussi, je crois. Mais bon, ça n'a pas trop pris en France, heureusement, parce que globalement,
Bah,
on te
avec
vend
la
Internet juste.
neutralité du
Ouais,
net.
voilà.
Et donc voilà, donc c'est une bonne vidéo, même pour ceux qui sont au courant de toutes ces choses-là, ça fait un bon rappel. C'est sous une grosse dose d'humour, donc comme on dit généralement, avec l'humour, ça passe un peu mieux. Et puis ça donne à la réflexion quand même, malgré le côté 100% humoristique, quoi. Les données, les chiffres qu'il avance dans sa vidéo, ce sont les vidéos que la CNIL et la MGEN lui ont communiquées. De toute façon, c'est des chiffres qu'on retrouve un peu partout, et puis ça sensibilise
Vas-y,
ouh,
réessaye.
beaucoup sur le social engineering surtout, qui est vraiment, enfin, pour moi, ce que je vois de, avec les différents sites que je regarde, c'est souvent le truc le plus, l'une des attaques les plus communes, quoi. Mmh. Et ça commence avec tout et n'importe quoi. Et donc, voilà.
Ok. Donc, on peut passer à Morgan alors.
Oui. Qu'est-ce que c'est, des news?
Ah, il n'y a plus la Morgan.
Morgan?
Non, tu sais excusez-moi, c'est que j'ai oublié de retirer les lasagnes, elles ont brûlé.
Voilà, voilà. J'aurais peut-être eu utilisé un
minuteur.
Un minuteur?
Mais si, je l'ai utilisé, vous l'avez entendu sonner.
Une sonde alors, peut-être, à base de raspberry, de framboise.
Oh!
Ah, et oui, respect. Je l'ai piqué à Deka.
Respect. Et ah, oui. Tu vas, au niveau transition, tu vas battre. Merde, c'était qui faisait toujours des transitions dans l'autre Nip Source là. Ah, tu vas le battre.
Mika, peut-être.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Ouf. J'ai quand même bien ramé pour l'amener. J'ai parlé de sonde.
Donc, en fait, tout ça pour dire que je suis tombé sur tout à l'heure, totalement par hasard. Donc, c'est sur opensource.com. C'est un truc qui est open source. Il faut y aller. Open source, open hardware. C'est basé sur le pas totalement open hardware, mais bref, c'est basé sur le Raspberry Pi. C'est un mec qui, ça fait 10 ans, il fait sa bière maison. Et en fait, il faisait quelque chose comme 5 gallons. Enfin, il a eu le matos pour faire 5 gallons. Donc, le gallon, je sais plus combien c'est de litres. Non, j'ai regardé, vite fait.
10 litres
Non, c'est des unités, c'est jamais. C'est jamais. Ouais, ça vaut jamais bien. Bref, ça vaut 3,78 litres.
Un gallon?
Ouais, un gallon. Donc 5, ça en fait 18,9.
Ouais, allez, on va dire 20 litres.
Ouais, une vingtaine de litres.
Voilà, donc voilà, le mec faisait 20 litres de bière qui se brassait tout le temps, puis il a décidé de passer au niveau supérieur, et il a acheté le matos pour faire 10 gallons. Donc 10 gallons, c'est 40 litres, on va dire, voilà. Pour faire 10 gallons, et alors attends, faut que je remette l'article sous les yeux. Et en fait, il s'est fait ça à base de Raspberry Pi, et il a automatisé tout le système
de fermentation,
ouais. Où il surveille la température, il regarde le degré, le fermentation, et donc il montre son installation, donc avec 3 cubes, il fait plusieurs bières sur un Raspberry Pi avec quelques capteurs, et donc il a fait un truc qui s'appelle pas mal, c'est le One. Je connaissais pas du tout, alors que pourtant c'est un petit peu mon domaine. C'est le One Wire Bus. En fait, c'est sur un bus de un fil. Du coup, tu peux mettre plusieurs capteurs. Moi, à chaque fois que j'avais un nouveau capteur, je le mettais toujours sur une nouvelle puce GPIO de mon Raspberry. Et là, du coup, ça, tu peux faire communiquer plusieurs capteurs. Donc, il avait un capteur genre de température par cuve là-dessus. Enfin, voilà. Donc,
tu peux mettre des capteurs comme ça direct sur le Raspberry, sans passer par.
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'en général, ça passe par des microcontrôleurs, etc. Non, t'as pas besoin.
Bah, le Raspberry Pi, c'est un microcontrôleur.
D'accord, mais qui est cité souvent avec le Raspberry?
L'Arduino,
voilà. Je pensais qu'on utilisait pas mal d'Arduino pour faire tout ce qui est justement des sondes, etc. T'es pas obligé, en fait.
Ouais. Alors en fait, la différence entre quand est-ce que tu vas utiliser un Raspberry Pi ou un Arduino, l'Arduino, si tu veux, c'est plus calculatoire. On va dire quand t'as besoin de faire du calcul informatique. Genre ça a plus de processeurs ou quoi.
L'Arduino.
Excuse-moi, je me suis embrouillé. Le Raspberry Pi, il a plus de processeurs, de RAM.
C'est un mini PC, fait tourner un OS. Alors que l'Arduino, juste faire des mesures et puis déclencher quelque chose en fonction d'un paramètre.
Ouais, en fait, le Raspberry, il a moins de puissance électrique, on va dire. Et même, il a même tellement moins de puissance électrique, c'est que sur des capteurs, quand il va lire des infos, souvent il va avoir des arrêts système, il y a des appels système qui le bloquent, et il va même pas être très performant pour lire tout le temps. Mm-hmm. Tu vois, genre, il peut y avoir des petits battements où il est pas très précis. Mm-hmm. Alors qu'un Arduino, il va être ultra précis, justement, sur tout ce qui est électrique, il va avoir plus de puissance, mais niveau puissance de calcul, il va en avoir moins.
D'accord.
Donc, et là, en fait, pourquoi il a utilisé un Raspberry Pi, c'est justement parce qu'il a besoin d'un peu de calcul, genre il va aller J'ai plus. Enfin, je sais qu'il fait des calculs avec les degrés de fermentation, de trucs comme ça.
En fonction du taux de sucre ou des choses comme ça, ou de la température.
Ouais, voilà.
Peut-être
ouais, il y a la température. Il y a. Enfin, il y a plusieurs données. Je me rappelle plus exactement. Je l'ai lu tout à l'heure. Je me rappelle plus de tout parce que j'ai pas refait le truc moi-même, évidemment. Mais et je me rappelle en fait, il y avait même. C'est tellement connu, c'est qu'il y a même des logiciels écrits en Python qui sont là pour qui vont aller surveiller les capteurs, qui vont aller faire les trucs. Ça s'appelle Craft Beer Pi. Qui est un logiciel Python qui va aller faire ça. Mmh. Et voilà, bon, en fait, c'est l'article qui présente donc comment il a fait ça. Donc, si jamais vous voulez brasser votre bière et monter à faire 40 litres de bière par personne, sachant qu'il dit que passer de 5 gallons, de 20 litres à 40 litres, c'est pas forcément.
Évident.
C'est pas beaucoup plus cher, mais par contre, tu gagnes le double de bière.
D'accord. Mmh. Mais ça demande quand même plus de contrôle que faire ça vite fait à l'arrache, quoi. C'est pour ça qu'il a automatisé, je suppose.
Ouais, c'est ça, ouais. Il a automatisé justement pour éviter de faire tous les contrôles tout le temps. Enfin, ouais, c'est ça. Et pour avoir une bière de meilleure qualité.
Ouais,
parce
ouais,
que
ouais.
Du coup, t'es contrôlé H24.
Ouais, oh, et puis surtout pour la cuvée, parce que 40 litres.
Hein. Ouais, il faut pas la perdre.
Bah, il dit, le consommateur numéro 1, c'est lui. Mais tu sais, genre, j'ai regardé, tu sais, dans mes assos locaux, locales, ils proposent aussi microbrasserie. Enfin, dans les assos, genre, où j'habite. Ils proposent de faire des microbrasseries. Devine le prix pour 20 litres de bière.
Pour 20 litres?
Ouais.
Pour la faire.
Ça doit être...
Pour la faire.
Ouais, pour te la faire.
Une quinzaine d'euros, je pense.
Ah, c'est quand même plus.
30 euros.
Tu l'as pas dit dans un de tes épisodes.
C'est possible que je l'ai déjà dit. Ça me dit. Mais ça.
Je me souviens plus.
C'est pas loin.
Mais ouais, je sais que c'était alors... trois fois rien, quoi. Au litre, c'était trois fois rien, quoi.
En gros, tu l'achètes dans un bar, c'est au litre, c'est sachant que c'est 7-8 euros la bonne bière. Pour la pinte, enfin pas la pinte, le 50 centilitres, donc ouais, c'est 16 euros le, c'est 16 euros le litre, on va dire, dans un bar, tu l'achètes dans un magasin, c'est 8 euros le litre, tu te la fais toi, c'est 1 euro et quelques. Ouais. En gros, c'est 25 euros pour les 20 litres.
Ah, oh, je fais pas loin.
Ouais.
C'est pas mal.
C'était dans la fourchette. Donc du coup, lui, il se fait 40 litres et tu t'économises grave ta bière, hein. T'imagines combien tu gagnes?
Ouais. Et puis t'as le...
Lui, ça fait 10 ans qu'il le fait, t'inquiète que depuis. Ouais, et puis c'est vachement convivial, hein. T'as ta bière à toi, à ton nom, ta recette, tu en as une que tu vas mettre du miel, pas du miel, t'invites tes amis, c'est quand même ultra convivial. Hein.
Mm-hmm. Et puis je pense que tout ce qui est genre fête des voisins, ouais, etc., voilà. Ça doit lui faire une bonne petite rente. Hein.
Je sais pas si ils ont des équivalents aux États-Unis, mais ouais, la fête des voisins, il y a moyen de faire plaisir.
Si, ouais, et puis tu vas chez des amis, tu ramènes ton litre de bière, quoi.
Même, voilà, même quelqu'un qui boit beaucoup de bière, quand même, les 40 litres de bière.
Tu peux changer de recette régulièrement. T'en fais plusieurs, peut-être, je veux dire, c'est des trucs que tu fais plusieurs fois par année, parce que ça dure une après-midi de faire une journée de faire son. Enfin, après, ça dépend combien de temps tu laisses fermenter, mais.
T'avais essayé
en soi, tu peux
essayé?
En faire. Non, j'ai jamais fait, mais je me suis toujours dit que j'allais faire ma bière. Mmh. J'aimerais beaucoup Organ Beer, tu vois.
Et moi aussi.
Et, hein. Et qui sait qu'un jour je la ramènerai dans l'apéro des papas manchots. Qui sait.
Ouais, il faudra que tu nous en envoies.
On ira peut-être plus vite que prévu.
Il faudra que tu nous en envoies, parce qu'il faut qu'on la déguste tous ensemble.
Ah, oui.
Ah bah, alors là, ce sera un épisode rencontre irréelle des papas manchots.
Ou alors il faut qu'on.
Le jour où je vais dans le Nord, on se rencontre, on fait une rencontre à trois.
Ouais, ou alors on fait vraiment une rencontre. Une vraie rencontre pour boire.
Ah bah moi je suis OP. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour de mon article. Il y aura le lien dans les épisodes. Regardez-le pour ceux qui sont un peu curieux.
Et combien ça coûtait en argent
en prix,
du système du Raspberry et des capteurs.
Alors attends, ouais, j'avais vu. Alors attends, faut que je retrouve le truc. Il dit exactement combien ça coûte, mais juste il dit.
Oui, une fourchette.
Ouais, c'est pas. Non, pas la fourchette. Il dit que c'est pas beaucoup plus cher. After moving up to 10 gallons. Non, ça parle. Le prix qui est mentionné exactement, mais je sais qu'il disait que c'était pas. Enfin, ça valait le coup, quoi.
Parce que.
Puis après, c'est pour le délire de le faire toi aussi.
Ouais,
t'as,
voilà.
T'as ta petite brasserie industrielle.
Mais par contre, si tu veux te faire directement le beer system avec le Python, le Raspberry Pi, et du coup, tout le nécessaire en plus. Pour créer la bière en elle-même, pour la brasser.
T'as l'article sous les yeux? Tu vois les photos de son truc là avec les trois cuves où vraiment t'as l'impression de te croire en industrie, t'as des.
C'est ouf, ouais, hein. C'est.
Et quand tu descends tout en bas de l'article, ça, il a même poussé le truc jusqu'à se faire un petit machin où t'as le truc à pression, enfin comme dans les pubs quoi, t'as la tireuse.
Ouais, avec les quatre, les quatre types de bières et tout.
Ouais. Bon, ça va quand même, il n'y a pas beaucoup, à part le système pour pomper le liquide chaud, soit je crois que c'est ça, 5500, c'est pas des watts.
5500 watts, ouais.
Ah si, c'est ça.
Ouais, c'est des watts, ouais. C'est pour, c'est pour la chauffer, ça, pour la fermentation.
Ouais, c'est. Et en plus, attention, les crédits photo sont en CC by SA 4.0.
Enfin voilà, donc moi vraiment l'article, si ça vous intéresse, vous pouvez lire. Moi je trouvais ça sympa.
Ouais.
Alors je te laisse gérer la transition.
Eh bien,
voyons voir.
En parlant de transition, qui est un mot français et qu'on peut avoir parfois du mal, peut-être accompagné de certaines bières à parler, il y a Fabrice qui va nous parler d'une suite qui nous aide pour le français. L'orthographe, la grammaire, appelée Grammalette, et son succès qu'a eu la campagne.
On l'applaudit quand même.
Merci.
Ouais, bah moi je l'ai au niveau des articles. C'est pas vraiment un article en fait, c'est Grammalect. Je sais pas si vous connaissez ou si vous utilisez.
Et je voulais financer. Oh pardon, j'ai spoil.
Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais je voulais savoir si vous connaissiez ou si vous utilisiez.
Donc, bah, vu comment j'ai ramé, je ne l'utilise
dans
pas, mais je connais.
Le correcteur par défaut, c'est Grammalect ou pas du
tout? Où ça?
Sur Firefox?
Dans Firefox.
Non, par défaut, non. Non, non, c'est, en fait, Grammalect, c'est une extension, un add-on que tu peux ajouter pour l'instant dans Firefox et dans LibreOffice.
Ah, je savais pas, donc, je crois que c'était celui par défaut.
Non, non, il y a eu une première campagne de financement, je sais plus, il y a au moins un an, au moins, peut-être deux, qui a été un succès. Elle a été très rapidement atteint son but, et du coup, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de. C'était pas encore utilisable. Mais là, depuis. Ouais, moi, je l'ai installé il y a au moins un an. Et comme je l'utilise, bah, justement, pour le blog, etc., pour quand tu as un article à corriger, il te met les fautes de grammaire, les fautes de français.
Il est performant.
Ouais, il est plutôt pas mal. C'est. Ouais.
Plus qu'un Word ou quoi?
Ouais, ouais, je pense que oui.
Le mot interdit.
Non, mais quand non, même, mais quand tu compares le correcteur de LibreOffice et les correcteurs de Word, ça n'a quand même rien à voir.
Bah, les correcteurs de par défaut, et au niveau grammatical, c'est pas le top, quoi. Ils te corrigent les mots quand ils voient que t'as fait une erreur d'orthographe.
Ouais, c'est le mot quasiment, ouais.
Mais tu peux, enfin, moi j'invite tout le monde à installer ces add-ons sur Firefox. Il est aussi disponible pour Thunderbird, mais moi j'utilise pas trop Thunderbird, donc pour les mails, etc. Ça permet d'éliminer quand même pas mal de fautes et puis même d'apprendre des règles de grammaire que tu connaissais pas, quoi. Parce qu'il te fait une proposition, il te dit ça c'est pas bon, je te propose ça. Et donc ils ont fait une deuxième campagne de financement. En fait, c'est un gars qui développe ce truc-là. Et...
Oui, il se présente passionné d'orthographe et de français.
Ouais, voilà.
Enfin, passionné d'orthographe et d'informatique.
Et donc il a fait une campagne de financement là qui s'est terminée dimanche dernier, donc il y a 3 jours, début juillet là. Et bon, il a galéré un peu parce que au début la campagne de communication, elle a pas été super bien relayée. Et puis sur la fin, il a réussi in extremis à atteindre le premier.
Comment est-ce que tu en as été informé, toi?
Alors, il y a eu un article sur LinuxFR, et puis c'est passé sur.
Pardon, article quoi?
Sur LinuxFR.
Ok, d'accord.
Il y a eu aussi sur Diaspora, il y a eu quelques relais, et puis il y a Fred Bézier, je sais pas si vous connaissez, c'est un blogueur.
Non.
C'est un blogueur, il fait aussi quelques vidéos.
Donc toi, c'est Internet, quoi.
Ouais, c'est Internet. Bah, je sais pas comment, ça va pas être ni à la télé, ni dans le monde. Hein.
Eh ben, moi, j'étais au courant. C'est, on a, en fait, récemment, notre LUGE, donc Linux User Group, c'est des assos Linux françaises.
Ouais.
Dans notre région, là, Rhône-Alpes, en gros, il y a eu une espèce de fusion, enfin, un endroit pour communiquer entre toutes les LUGE, quand il y a des trucs à faire, des événements ou quoi. Et on a rejoint ça récemment et on a été au courant sur la, enfin je veux dire au niveau local quoi, c'est l'asso qui a fait passer le mot.
D'accord. Ouais bah à la
et
fin.
Ça c'est vachement pas mal parce que sur internet j'en avais pas du tout entendu.
Ah ouais. Mais t'es enfin comment tu t'informes principalement? Comme t'es pas sur Twitter, t'aurais pas pu en entendre parler. À mon avis, c'est là-dessus qu'il y a eu plus de buzz, mais bon, moi je suis pas sur Twitter non plus. Il y en a eu sur Diaspora, ils en ont parlé un peu, puis après il y a quelques blogueurs qui en ont parlé.
Moi je suis au niveau réseau social, je suis sur Reddit et Pinterest.
D'accord, et sur Reddit il n'y a rien eu du tout.
J'ai rien vu, non.
D'accord, ok. Bon, bah,
bon enfin voilà.
Enfin bref, en tout cas c'est bien que ce soit. Moi j'ai financé un peu puisque je l'utilise. Je trouve quand même que c'est sympa de participer un peu et puis d'en faire la promotion parce que c'est un bon la référence je
et
crois
ils ont
que
eu combien
il demandait 15 000 euros.
Ouais, il demandait 15 000, mais où tu sais, il y avait deux paliers.
Ouais, mais après le palier suivant c'était pour passer sur Chrome. Pour mettre l'add-on sur Chrome. Alors il dit qu'il le fera peut-être si c'est pas trop long, parce qu'il sait pas trop si le passage de Firefox à Chrome est compliqué ou pas. Parce qu'au niveau du JavaScript, je crois qu'il y a des différences. Donc il voulait pas trop.
S'aventurer là-dedans.
Ouais, voilà. Il pense que ça peut être compliqué, donc il voulait pas. Il voulait mettre ça bien
ouais,
à part.
Normal,
il voulait mettre ça à part. Et bon. Comme beaucoup de libristes utilisent quand même plutôt Firefox, ça les intéresse peut-être pas forcément que. Enfin, c'est pas une priorité, quoi. Mais bon, ça, c'est vrai que ça serait pas mal non plus que ce soit étendu à d'autres outils. Voilà.
Bah, ouais, moi, je me suis dit, je fais partie des gens, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, ça a l'air grave cool et tout. J'ai vu, je me dis, putain, je suis pas sûr qu'ils réussissent. Enfin, moi, à l'époque, il manquait 7000, j'ai regardé. Je me dis, putain, faut que j'y repense, faut que j'y retourne. Genre quelques jours avant, voir s'il y a combien ils sont, si je peux aider, tu vois, genre si je peux mettre 10 € et que la veille ça aide, voilà, je les mettrai. Mmh. Et bah au final j'ai complètement oublié. Et c'est toi qui m'apprends que ça a été un succès.
Ouais, mais c'était vraiment une extrémiste. Hein. Il est passé 2 jours avant, il était pas encore, mais à la fin apparemment il y a eu suffisamment de relais pour que ça.
De toute façon, c'est toujours ça, hein, les derniers jours, c'est là où ça vit le plus. De...
Ouais, ouais.
Où ça se vautre littéralement.
Ouais, bah souvent tu le vois dès le début. Hein. Enfin, là au début ça a démarré pas trop mal. Après il y a eu un creux, mais des fois si t'as atteint 10% au bout de 15 jours, tu sais que c'est foutu quoi. C'est...
À moins que tu aies une superbe, superbe buzz d'un coup qui vient de je ne sais où et qui.
Moi le truc quand je vois une campagne, si je vois que, tu vois genre je voyais qu'ils étaient à la moitié, je voyais qu'il restait 2 semaines, je me suis dit je vais pas donner maintenant, je vais attendre la fin. Ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui attendent de voir ce que ça donne. Mmh. Et je me dis, à la fin, ah, s'il ne manque pas beaucoup, bah, je donnerai.
Ouais, bah moi, pour la première campagne, comme ça a été super vite réussi, moi, je me suis dit, je vais attendre un peu pour voir. Et puis, comme c'était réussi, et puis que je ne connaissais pas, je n'utilisais pas encore. Je me suis dit, c'est bon, ça a marché. Mais effectivement, souvent, les trucs, les projets auxquels tu veux donner un coup de pouce, c'est bien de surveiller et puis de donner un coup de pouce si jamais ça. Ils n'arrivent pas, quoi. Voilà.
Bon.
Alors, le chef des transitions, qu'est-ce qu'il va nous faire ?
Alors, en parlant de coup de pouce, il nous faut un certain coup de pouce parce que c'est l'heure de l'apéro.
Attends, donc, je voulais juste parler d'une petite news vite fait. Je vais pas m'attarder parce que voilà.
Ah, tu as une news ?
Ouais, une autre.
Bon, faut que ça rime avec pouce. Débrouille-toi.
pouce, tu me donnes un coup de pouce. Ouais, non, j'espère. En gros, tout à l'heure, je parlais de FreeBSD et tout, et un truc qui m'a donné envie de passer à FreeBSD, c'est en fait, OpenBSD a une nouvelle feature qui fait qu'à chaque reboot, ton kernel va être différent. Donc, ça, c'est plutôt un truc que j'aurais dû parler sur Alpinux, parce que avec Jean-Noël, on aurait eu l'explication beaucoup plus technique. Mais voilà, je tenais à en parler. En vrai, en fait, le truc, vous savez, il y a des attaques buffer overflow, là, c'était par dépassement de mémoire. Mm-hmm. Tu sais, les langages comme le C ou quoi, ils travaillent avec le pointeur, du coup, ils travaillent près de la mémoire. C'est comme ça que tu parles à des microcontrôleurs, c'est en parlant avec des adresses mémoire et tout. Et eux, ils travaillent à ce niveau-là. Et en fait, les failles de sécurité, souvent, c'est que tu vas les lire, tu vas les taper dans la mémoire du voisin en disant, toi, driver, qu'est-ce que t'as en mémoire? C'est genre pour l'imprimante et tu peux récupérer des mots de passe imprimante comme ça ou des choses comme ça. Bon, bref, ce type d'attaque. Mm-hmm. Et pour pallier à ça, donc c'est le premier à faire ça, donc ça n'existe pas encore sur Linux, ça n'existe pas encore sur Windows. À chaque reboot, en fait, ils vont changer l'emplacement des fonctions, enfin des trucs dans les adresses mémoire, et du coup, à chaque reboot, les attaques overflow elles vont être beaucoup plus difficiles à prévoir parce que tu vas pas savoir comment ça va être. Chaque reboot, ton nouveau noyau va être aléatoire au niveau des endroits où sont situées les choses en mémoire. Bon, c'est peut-être très très pas clair ce que je viens de dire. En même temps, c'est pas très clair dans ma tête non plus. Enfin, j'ai compris l'essentiel, mais je pense que je devrais peut-être en reparler avec Alpinux de cet article.
Ouais, c'est pointu.
Ouais, c'est très pointu, mais très intéressant.
D'accord.
Là, donc il y a l'article. Si vous voulez, est-ce que c'est le développeur qui dit ça? Enfin, c'est l'article du développeur qui a développé la feature. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez ça. Voilà. Donc après le kernel qui change à chaque reboot, on va avoir la bière qui change après chaque épisode.
Ouais, c'est bien ça.
Ah, pourquoi pas? C'est une bonne transition. Et donc du coup, qui c'est qui veut se lancer?
Toi, t'es le premier dans la liste.
Oui, mais bon, la liste. D'accord. Alors moi, d'abord, on va vous faire entendre ce merveilleux bruit si je retrouve le décapsuleur.
On le fait à trois.
Voilà.
On le fait à trois.
Un, deux et trois. Et donc.
Elle est tombée par terre, la capsule.
Non, sur le bureau, moi.
Ah, c'est toi? Ah, mais moi aussi, il fallait que je. Ah,
bah oui, à trois.
Bah oui, tout le monde.
J'avais pas compris. Bon, allez, vas-y, décris ta bière, jeune homme.
Laisse-moi prendre une petite gorgée.
Et donc, alors.
Voilà. Donc, c'est une Belzébuth Pink. Donc, c'est de la bière blanche à la framboise et au tarome.
Pourquoi ink? Ink, ça veut dire encre.
Pink.
Ah, pink.
Non, pink.
Ah,
c'est son clavier, tu sais.
Oui, c'est à côté du clavier qui a marqué ink sur le.
T'as plus le P.
Le P ne marche pas. Voilà.
Donc, elle est
comme
rose.
Comme quoi, ce n'est pas que les touches dans les FPS.
Donc, elle est rose. C'est une bière rose.
Ouais. La... En fait, le. Comment on va dire ça? Le packaging. La bouteille en elle-même, elle est rose, peinte rose.
Ça mousse là.
Ouais.
Ouais. C'est Fabrice. Et ouais, elle est rose, et en fait ça a la framboise. Et voilà, c'est elle est à 2,8, donc c'est léger, mais on sent bien le goût de la bière malgré tout la framboise. C'est pas mauvais. Mais par contre la tronche de la bouteille, ça fait vraiment bon, à part les petits démons dessus, mais ça fait vraiment Barbie, quoi. C'est vraiment un rose rose Barbie, quoi.
C'est une bière à cerise, enfin les criques là, ou pas du tout? Pour qu'elle soit rose.
Oui, c'est à la framboise. C'est une bière blanche à la framboise.
Ah, la framboise, ok.
Ouais, mais le rose, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'ils avaient.
Ils ont mis de colorant.
Non, c'est vraiment la peinture du. De la canette,
de la
bouteille en elle-même.
La
non, l'intérieur. Elle
c'est un truc girly. Elle est sucrée, non?
Ouais, mais pas trop en fait. C'est marrant parce que tu sens la framboise quand tu l'embouches, et juste après, tu sens la bière blanche, quoi. Mais ouais, c'est 2,8 degrés.
Ah oui. C'est pas. Ouais, c'est girly.
Voilà. Mais pourtant, on sent vraiment la bière et pas. Comme certaines où t'as pas le goût de bière, t'as que le goût de fruit, ou là c'est d'abord le fruit et après tu sens la bière.
Ok,
donc, voilà. Et donc après c'est qui, Fabrice?
Alors moi j'ai une bière qui s'appelle la Morga.
La Morgane?
Ouais, j'ai pensé à toi quand je l'ai prise. Donc je suis allé sur l'île de Belle-Île. Au printemps là, et puis il y avait une brasserie sur l'île, et on a fait un petit tour, et puis on a acheté quelques bières, et là c'est la bière ambrée qui est sympathique, elle a un bon petit goût. Je peux vous lire la petite description. Une île, une bière, située entre la Lande et les Embruns, sur les terres de la Belle Fontaine, la brasserie La Morga a su donner à sa bière le goût du large. Fabriquée de façon traditionnelle, respectant des saveurs vraies et simples, la Morga est une véritable ale brassée à partir de trois maltes d'orge et de houblon rigoureusement sélectionnés, à servir généreusement.
Ah, ouais, comme quoi, ouais. C'est des poètes, les mecs. Hein.
Ah, oui. Ouais, non, mais bon, on a vu le gars, il était sympa et tout, et bah, c'est vraiment du traditionnel, quoi. C'est juste le niveau au-dessus du gars qui fait son truc avec son raspberry, quoi. Mais.
C'est une.
Ah, d'accord.
C'est pas fait à grande échelle.
Non, bon, après, ils profitent du tourisme, hein, y a pas de problème. Hein.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas un Henken ou.
Ah non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un hangar avec quelques cuves, quoi. Hein. C'est du local, c'est du vrai artisanal.
Oh.
Voilà. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu nous bois?
Alors, moi, j'ai une Adèle Scott. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais l'ouvrir. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Est-ce
Donc,
que c'est un...
je vais l'ouvrir
Est-ce
en même
qu'elle va
temps que
avoir
vous.
un goût de textile ou pas?
Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Ah ouais, non, déjà, on va lire. Une Adèle Scott, c'est une bière aromatisée au malt à whisky.
Ah.
Recette unique qui, par ses saveurs fumées de malt à whisky, confère cette bière un goût inimitable. Voilà. Alors, on va tester. Alors, j'en profite que Deka ne soit pas là pour prendre des bières en canette. Alors, je sais qu'il va me dire, ah, c'est un goût de fer, c'est pas bon.
Ah, mais moi je suis d'accord avec lui. Hein.
Après, ça dépend.
Mais alors, en gros, j'ai déjà vu de la pression qui est restée trop longtemps dans la pression. Genre, les bières qui vendent pas beaucoup irlandaises, là, du goût. Et ben là, ça a un vrai goût de fer.
Enfin, oui, bref. Et puis après, ça
je vais faire appel à un ami.
En fait,
un ami qui s'appelle Michael.
Oui.
Alors, attends, Mika.
Il dort.
Tu peux venir, j'ai besoin que tu goûtes une bière et que tu m'en donnes une description.
Il l'a.
Là, je viens de l'ouvrir.
C'est le coup des lasagnes brûlées, celle-là.
Ça l'a secoué. Alors, je vais goûter, on va voir. Une bière au whisky, ce que ça donne. Non, jamais goûté. Tiens, test. C'est bizarre, je sais. C'est pas du whisky, mais ça fait penser quand même. Parce que le whisky, ça me donne envie de vomir, faut le savoir. J'en ai tellement vomi que je peux plus boire de
whisky. Voilà. Lasagne brûlée, vomi.
Tu sens le whisky un peu ou. Ouais? Ah, il y a quand même des. Je crois que je vais pas pouvoir la boire en entière.
Non, mais tu peux vomir
c'est
dans
possible
le
qu'elle
podcast,
me dégoûte
ça peut
avant
être
la
sympa.
Fin.
Hein. Tu peux vomir dans le podcast, c'est super.
Mais tu as fait un ami heureux.
Non, c'est pas du. Ouais, alors ça, justement, je voulais en parler. Et toi, tu la décrirais comment, là, au niveau du goût? Elle est douce? Moi, je trouve qu'elle a. Elle a... Moi, je trouve.
Il peut parler plus près du micro?
Attends, faut que tu le dises plus près du micro. Elle est quoi?
Un petit côté sucré.
Ah. Ouais, elle est. Ouais, je suis d'accord, elle est sucrée. Ça, je suis d'accord. Et ben.
Et ça me charrie avec ma bière de femme, là.
Ok. Ouais.
Oui, je vais boire de l'alcool de canne.
Je vais regoûter quand même.
Ouais, là, heureusement que Deka il est pas là parce que là il vous aura engueulé les gars.
Ah ouais.
Il y a quoi qu'il y a de la vraie bière là dans l'histoire.
Ah.
Ouais, moi je trouve quand même qu'elle a le whisky, tu sens quand même un petit peu. Hein. Ah franchement, ils ont pas fait les choses à moitié. Oh. Bah, moi je voulais juste dire sur cette bière parce que du coup je l'ai wikipédié. C'est cette brasserie, elle s'est fait racheter par Henkein. De toute façon, Henkein, ils ont tout racheté, ah. Fischer, eux, machin. Donc maintenant, les brasseries par Henkein. Et
ça,
en
là,
fait, depuis 2000, avant 2006, il y avait vraiment du malt à whisky. Mm-hmm. Et post 2006, ils ont remplacé par des arômes malt whisky.
Ouais.
Ouais, t'avais raison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bière.
Eh bien, après la...
Attends. Normalement,
oui.
On est à l'apéro, donc...
Eh oui.
Ah oui, la question.
Une question.
Après Adèle Scott, Sherlock Holmes.
Ah oui. Bien sûr.
Sherlock Holmes.
Bah, Adèle.
Eh oui, Adèle.
Adèle. Bah, pour moi, Adèle, c'est une chanteuse. Ou une lesbienne, ça dépend.
Oh, tu n'as pas lu les livres.
Ah non, moi, Sherlock Holmes, j'ai jamais lu. Hein.
Non, Adèle Blanc-Sec.
Ah, Adèle Blanc-Sec.
Ah les gars, moi je suis né pas loin avant 2000. Hein.
Non mais je connais pas trop non plus, mais deux noms quand même.
Bon, ça me dit rien, désolé.
Allez, pose-nous ta question.
Bah, j'ai deux questions du coup. Je sais que Fabrice, tu voulais utiliser ton droit au rattrapage.
Mm-hmm.
Alors, je te laisse l'utiliser avant que je pose ma question.
Comment ça?
Bah alors, je vais la poser à ta place.
Ah pardon,
alors...
excuse-moi. Vas-y, pose la question que j'ai... Vas-y.
Alors, Fabrice... Lors de notre dernier épisode, le hors-série avec la cabine bleue, Morgan nous a posé cette fabuleuse question en trois points. Quel est le premier podcast que tu as écouté?
Mm-hmm.
Comment tu es venu à l'écouter?
Mm-hmm.
Et surtout, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Quel podcast tu conseillerais?
Ok. Alors, le premier podcast, j'arrive pas à me souvenir quand j'ai écouté.
J'arrive pas à me souvenir.
Non, j'arrive pas à me souvenir. Et ça fait.
Comment t'as découvert le podcasting? T'arrives pas à te
Alors, si, ça, je sais comment. C'était en 2006. C'était quand je commençais à prendre la voiture pour aller au boulot, j'avais 40-45 minutes. Et du coup, comme j'en avais marre d'écouter la radio et tout, j'ai commencé à utiliser des podcasts, mais c'était des replays de radio en fait, au début.
Ah, c'est pas du podcast, ça s'appelle
Non.
SketchUp.
Voilà,
Ketchup.
catch-up.
Oui, mais bon, quand tu regardes sur les téléphones, c'est dans les catégories podcast, hein.
Mais bon, allez, en 2006, il n'y en avait pas des tonnes, hein, des podcasts, des vrais podcasts indés natifs, comme on dit. Et donc, c'était principalement des podcasts de radio. Mais je pense que l'un des vrais premiers podcasts que j'ai écouté, c'était Parole de Tux. Parce que celui-là, il m'a vraiment marqué. Parce qu'il y avait une ambiance particulière, c'était vraiment une émission où tout le monde discutait et apportait son sujet, etc. Ça partait dans tous les sens et je me suis marré, mais quelque chose de terrible avec ce podcast.
Dont vous pouvez toujours écouter sur la radio libre sur le panneau de gauche, sur le site de bloglinux.ca, dans la radio. Quand ils sont pas en ligne, vous avez une chance de tomber dessus ou alors sur leur site internet.
Donc ça.
Donc, c'est la première partie de la question, tu as répondu. Ensuite, la deuxième.
Qu'est-ce que je conseillerais? C'est ça?
Oui.
Alors, moi, je conseillerais deux. Vous aviez droit à deux ou un? Enfin, moi, j'en
À la
conseillerais
base,
deux.
on avait dit trois chacun,
Trois
mais je pense que
chacun.
ça a été raccourci.
Oui, après, on a raccourci comme tout le reste
Je crois
de
que
l'épisode.
tu avais cité Bazincast.
Bazinecast.
J'en ai écouté quelques épisodes sur la fin. Justement, celui-là, il était sympa comme podcast. Surtout
Ah
Et justement, quand il y a, je sais plus, deux ou trois épisodes, quand on a parlé de Replay, là, le livre Replay, ça venait de ce podcast.
ah, c'est eux qui te l'ont conseillé.
Un des animateurs en avait parlé, donc je me suis dit, tiens, il avait pas tout écouté. Bon, après, des fois, il citait des bouquins et bon, ça passait un peu.
En fait, généralement, les recos étaient en fin d'épisode et je m'endormais.
Ouais, puis je suis pas sûr qu'il les mettait dans les notes. Parce que j'ai eu une ou deux recos comme ça que j'avais pris, mais enfin, il faut le noter pile quand tu l'entends, parce que sinon après, c'est foutu. En plus, c'était des épisodes de 3 heures, des trucs
Pour
après,
retomber dessus, ouais.
pour tomber
Pour
dessus,
retomber dessus même à la réécoute.
Alors, donc sinon, ben, ça c'est un podcast qui n'existe plus, mais bon, je sais pas si on peut, ouais, je crois qu'on peut encore les écouter, hein, ils sont encore disponibles. Mais sinon, comme podcast actuel, moi je vous conseillerais un podcast qui pourrait être parent
Non,
avec
ce que
l'apéro.
tu écoutes actuellement.
Ah ouais, mais je les écoute. Qui est un peu parent avec l'apéro des papas manchots, puisque là c'est un qui s'appelle un podcast l'ABCD. L'ABCD. Attendez.
Podcast.
Voilà.
Ouais, la BCD, c'est le ZQSD, mais avec leur enfant, enfin, c'est les darons qui parlent, quoi.
Voilà, en fait, c'est
Ouais.
un
Tu l'as
sous-produit.
découvert comment, celui-là?
Comment j'ai découvert? Ben, moi, j'écoute pas.
Studio 404?
Je suis pas sûr. Non, je crois que ça doit être parmi des recos dans d'autres podcasts. Ouais, je sais plus exactement comment je l'ai découvert. Mais en fait, ouais, effectivement, c'est ZQSD qui est surtout axé jeux vidéo. Moi, j'écoute pas. Mais c'est quelques membres, dont, enfin, principalement des filles. Il y a Diren et Force Rose qui sont les principales animatrices qui font un podcast de parentalité geek. Et
Tu m'as pas dit que tu venais du Nord?
Si, si.
Pourquoi tu dis farce rase?
Ah, parce que je suis du Nord.
Voilà, c'est farce rose, une rose.
Oui.
Excuse-moi, non, désolé, aparté de merde.
Non, mais t'as raison.
Voilà.
J'ai pas trop
Et
d'accent.
j'en refais une autre. Pink Power. Allez.
Voilà, un petit. C'est pour ça que t'as pris une bière rose, c'est ça?
Eh oui.
Oh, tout est lié.
Tout est lié.
Et donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà écouté ou pas?
Moi non.
Oui, moi j'ai écouté leur premier épisode où justement ils disaient, je trouvais ça vraiment sympa, où ils disaient que du moment qu'il a des bonnes notes, elle laisse son gamin jouer, et puis mine de rien, Pokémon, ça t'apprend un peu genre à te repérer sur une carte, ça t'apprend les trucs genre l'eau avec le feu, enfin la relation entre les éléments et tout. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que dans les jeux vidéo, il y a quand même toujours un peu une petite part éducation, c'est pas toujours que du jeu.
Bon, alors après, ouais, il parle pas mal de jeux vidéo, pas mal de dessins animés, enfin tout ce que tu peux mettre
dans la culture geekos, on va dire.
Ouais, mais pour les enfants, quoi. Enfin, pour. Mais il parle aussi pas mal de parentalité, notamment avec leurs invités. Et leurs invités sont souvent sympas. Ils ont reçu Captain Web, par exemple. Ils ont reçu comment il s'appelle Erwan Karios. Je sais pas si vous connaissez. Qui fait le 56 cast, qui est il est journaliste à Libé. Il fait pas mal.
Non,
de,
je le connais pas.
Il fait pas mal de chroniques sur les jeux vidéo en fait. Enfin, c'est à chaque fois c'est des invités super sympas et bah le côté parentalité aussi assez intéressant quoi. Voilà. Donc c'est comme
parce
nous.
Que t'es de l'autre côté de la barrière.
Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'était le premier podcast que je recommanderais et puis le deuxième c'est le P2P. Alors, ce P2P, ça veut dire
piratage.
Ouais, non, ça veut pas dire peer-to-peer, mais fil to pof ou pof to fil. En fait, c'est deux animateurs qui l'un s'appelle Pof et l'autre Fil. Et en fait, ils discutent. Il existe depuis 2012 ce podcast et ils discutent de jeux
vidéo.
Wow. Ouais, ils discutent de jeux vidéo.
Ah, c'est une éternité dans le monde du podcast.
Ça. Ouais, de films, de séries et puis de leur vie, de ce qui leur arrive, quoi, de leur déménagement, de leur galère, etc. Et en fait, ces deux animateurs, ils ont fondé PodCloud. Et PodCloud.
Ah, c'est eux ?
Ouais.
Ah !
Donc, c'est bien ce qu'on disait, tout est lié.
Alors, vas-y, qu'est-ce que tu connais de PodCloud ?
Alpinux.
Tu lui as lancé la perche ! Vous pouvez retrouver un excellent épisode
Blog
sur le FPGA.
Ouais. En fait,
Linux sont sur.
Mais l'apéro des papas manchots aussi est sur PodCloud en fait. Je sais pas si vous saviez.
Ah non.
Ah écoute, tu nous l'apprends.
Si.
Mais les mecs de PodCloud, respect. Genre, ouais. J'ai posté l'apéro des Alpinux et en fait, on faisait partie des top 10 des écoutes une semaine après le lancement dans notre catégorie. Et ils ont dit ouais les gars, vous avez pas de poster. Je me suis permis de récupérer le logo de votre asso et de le mettre dedans.
Ah
non
oui.
Super initiative, les gars.
Franchement, PodCloud, c'est le Framasoft du podcast.
C'est
le Framasoft du podcast.
Non, parce que ce que je reproche encore à PodCloud sur la plateforme, c'est qu'au niveau des commentaires, ils utilisent Discus, là, un truc qui est propriétaire.
Ouais, ouais,
et genre, ça passe très mal auprès de la communauté geek.
Ouais.
Et je les ai contactés, je leur ai demandé d'avoir un vrai système de commentaires, ils ont dit que c'était pas dans leur priorité.
Ouais, ouais, non, mais c'est pas ce niveau-là que je voulais dire. Mais en fait, c'est vraiment une asso. Et ils aident tous les gens qui veulent se lancer dans le podcast. Ils te fournissent toute la structure.
Déjà le flux RSS,
voilà,
la diffusion, voilà. Les blogs, enfin le système de blog, ouais.
Voilà. Bon, il y a effectivement que les commentaires qui sont un peu limites. Et puis toute la communauté elle est sur Twitter, donc si t'es pas sur Twitter c'est pas évident de discuter avec eux, mais bon ils sont quand même assez ouverts au niveau.
Attends, envoie un mail, ils te répondent.
Oui, le mail ils te répondent, etc. Mais pour discuter c'est moins évident quand t'es pas sur Twitter. Voilà, voilà.
Bon, et PodCloud et français.
Bah ça fait deux.
Non, c'est français.
Ah c'est français.
Oui, c'est français, bien sûr. Ouais.
Bah voilà.
C'est une association française.
Cocorico.
Mais je savais même pas que c'était.
Sous la loi 1901.
Ouais, ouais.
Voilà. Cocorico à vous, si vous nous écoutez. Bravo à vous, du moins, et Cocorico, des Français.
Ok. Je vais maintenant que t'as rattrapé ta question de retard. Le reste de tes recours, on les mettra en fin d'épisode.
Ouais, ouais.
Juste, maintenant que tu as rattrapé ta question de retard, je voudrais vous poser une question, les gars.
Vas-y.
Oui.
Bah, tiens, Mika, viens par là, je vais te poser une question. On fait un truc interactif, tu vois. Alors,
bon,
je sais pas
si... On attend toujours madame et son chiffon, hein.
Ah, bah.
A-t-elle découvert le poteau route?
Si je vous annonce que dans un mois, vous allez être téléporté dans l'an 1100. L'an 1100, pour vous situer, voilà, c'est un peu les premières guerres de avec Jérusalem et tout ça, là, les premières croisades.
Mm-hmm.
Donc, époque moyenâgeuse. Qu'est-ce que vous feriez pendant ce mois-là ? Enfin, qu'est-ce que vous feriez ?
Ça serait où ? C'est où on veut ou c'est en France, c'est là où on habite et...
En France, on va dire en France.
Ah merde.
Moi, j'ai pas préparé la question à ce point.
Ah mais que ce soit
vas-y, John.
En plus, c'est moi.
Et c'est pendant combien de temps ?
Ah bon, bah vas-y.
Ah oui, comment
pour ta vie ? pour ta vie. Pour ta vie. Dans un mois, on te téléporte, je te le dis.
Et j'ai pas reste un mois. Je peux pas revenir.
Et tu peux pas revenir.
Il me reste un. Ah, donc ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant ce mois avant, ouais. avant d'être téléporté, c'est ça?
Exactement.
Alors, ça me rappelle justement le Bazencast, parce qu'ils avaient ce genre de discussion un peu alambiquée sur si t'étais au Moyen-Âge, qu'est-ce que t'emporterais, etc. Alors, bah déjà, je pense que je me refais faire toutes les dents, parce qu'il n'y aura pas de bon dentiste.
Oh, comment tu manques d'ambition.
Attends, parce que je peux faire d'autres choses en un mois. Bon, je peux pas. On peut rien emporter, je suppose. On est à poil.
Non, ouais.
Bon, alors il faut.
C'est genre les visiteurs, quoi.
Ouais, bon, globalement, il faut apprendre à faire des trucs, quoi.
Exact. T'as tout compris, la philosophie.
Donc, il faut apprendre à se faire bouffer. Ce qu'il y a, c'est que moi, je le fais déjà un peu. Donc, style cultiver le potager, faire du pain. J'apprendrai peut-être à faire de la bière. Mais bon, ouais.
C'est... Ouais, mais cultiver le potager, t'arrives, t'achètes des graines au magasin. Hein.
Non, ouais, je l'ai fait moi-même. Enfin, pas toutes, mais. Ah, bref, en 1100, ils ont des graines aussi.
Et oui. Ouais, et en plus.
Donc, toi, tu ferais rien. Tu t'es déjà autonome.
Non, je suis pas déjà autonome. Je te dis, il faut. Ouais, ça se réfléchit quand même. Ça, c'est pas en 5 minutes que tu te fais ton mois, ton planning de ton mois. Ouais, je sais pas, allez-y un peu.
Bon, allez, bah, je vais dire la mienne, ça va peut-être vous donner des idées. À moins que John, t'as des choses à dire?
Bah, moi.
T'as peut-être une idée?
Je pense que, ouais, je me referais mon petit côté survivaliste, donc tout ce qui est plantes, etc. J'allais dire nourriture, mais ça va avec les plantes.
Si, apprendre à fabriquer des armes, des arcs, etc., par exemple?
Non, pas besoin.
Pas
médecine.
Besoin
que de la médecine.
Que de la médecine?
Je serais l'équivalent de Cléopâtre. Je serais l'empoisonneur numéro 1. Que de la médecine. La médecine et
quelques vaccins aussi, peut-être avant de partir, non?
Oh, ah, grave. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas si vraiment il serait efficace ou si c'est un coup à détruire quand même l'humanité. Parce que pour un vaccin, on t'injecte quand même la maladie qu'il est censé combattre.
Ouais, mais t'es pas contagieux. Quand t'es vacciné, tu deviens pas contagieux de la maladie que quand t'as inoculé. Non.
Oui, mais peut-être pas, hein, tu sais.
Non, en principe, non.
Oui, mais bon, en principe, on ne te téléporte pas en 1100, donc... je préférerais pas me vacciner.
D'autres idées, John?
Ouais, tout ce qui est dents, médecine, et puis... et puis un dictionnaire des temps anciens, parce que la langue française...
Ouais, ça, c'est une bonne idée.
Premier point, ça, c'est premier point, idée. Bravo.
Et puis voilà, quoi, je pense que c'est tout.
Tu crois que tu trouves ça dans la première librairie, un dictionnaire des temps anciens? En plus, ils doivent avoir un accent à couper au couteau, si ça se trouve, tu comprends rien, quoi.
Ouais, ou alors j'apprends les premiers langages des signes.
Peut-être faire quelques révisions de latin aussi, pour pouvoir bouquiner un peu les bouquins de l'époque.
Oh là là, alors moi, ça serait carrément apprentissage latin. dis tant pis, vas-y, c'est pas grave. Je me coupe la langue avant de partir, c'est mieux. Et toi, Morgane?
Moi, j'y ai réfléchi. Bah, j'avoue que j'ai eu un peu plus de temps que vous pour y réfléchir.
Oui.
Et je me suis dit, déjà, première chose, il faut que j'apprenne la langue. Parce que, ça, à mon avis, c'est à des années-lumière du français qu'on parle actuellement. Deuxième chose, je me dirais que j'apprendrais l'art de la guerre. Genre être capable de me forger une épée, les stratégies de guerre de l'époque, celles qui n'ont pas été connues. J'apprendrai un peu je réfléchirai à la géopolitique de l'époque aussi. Qui sait, je peux être Jeanne d'Arc.
Tu veux devenir conquérant, quoi, carrément. Tu veux
même pas. Ouais, franchement, ouais.
Mais après, ce qu'il y a, c'est que la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'arrives? Tu ferais quoi?
Ah non, mais moi mon but, c'est d'avoir tu vois, genre de mettre ma famille dans la noblesse, tu vois.
Ah, carrément.
Si j'ai vécu ouvrier ou quoi, moi, je veux qu'avec mon savoir, que je sais qu'il va se passer quelques... Je peux pas apprendre l'histoire, ça sert à rien, parce que je vais la changer.
Ouais, enfin,
mais je veux apprendre la géopolitique de l'époque, je veux apprendre les tactiques militaires, celles qui ont eu beaucoup d'effets de surprise qu'ils connaissaient pas à l'époque. Enfin, ouais, je veux.
Ouais, tu sais, c'était quand même que des petites baguettes, batailles. Hein. C'était pas. Enfin, sauf si tu veux. Non, il y avait pas.
Une bataille de 3000 personnes, c'était une énorme bataille à l'époque.
Ouais, ouais.
Gérer une garnison de 3000 personnes, les chevaux, la bouffe.
Ouais, c'est vrai.
C'est des grosses batailles. les forts, enfin les sièges, les techniques de siège, les choses comme ça.
Et toi, ouais, toi, non, tu voudrais devenir conquérant.
J'apprendrais l'art de la guerre.
Tu voudrais être conquérant.
Ouais, franchement.
Parce
ouais.
que moi, si j'arrive,
je peux résumer, ouais.
moi, si j'arrive à cette époque-là, moi, je fais artisan dans mon coin, quoi. Tu vois, un peu comme dans Retour vers le futur, tu vois, le Doc, là, il arrive, bah, il fait artisan, quoi. T'as pas trop le choix à cette époque-là. Hein.
Non, ou alors, pas. Faut être prêtre.
Ouais.
Bah si, c'est l'époque bénie, les croisades et tout ça aussi.
Ah, enfin, t'as intérêt à réviser.
Tu peux commencer à lever les Templiers.
T'as intérêt à réviser ta Bible avant.
Ah ouais, 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 ouais. Puis la Bible, de... c'est pas la même.
Et là, c'est la Bible en latin. Que... Là, c'est la Bible en latin. C'est pour ça que je te dis, t'as intérêt à apprendre le latin.
Mais c'est pas grave, je crée une nouvelle Bible. Ma Bible à moi.
Je crée une.
Enfin sorte. Voilà, ouais, moi, ce serait devenir conquérant en fait.
De torrent, tu n'utiliseras point.
Adopi, tu m'en
Bon, après, ouais, t'oublies l'informatique parce que ça te servira plus, quoi.
Mais tu créeras les bases. Oh, voici une bonne idée. Forcer les graines Cocopelli à devenir obligatoires.
Les graines quoi?
Cocopelli. Ouais. De l'association Cocopelli. Des vraies graines de ce qu'ils appellent héritage. Donc pas les trucs transformés à l'OGM, etc. Tu sais, tout ce qui est pastèque sans pépins, tout ça, là.
Ah bah la pub bleue.
Oui, voilà. Ou les, comme au Japon, où ils te les font pousser. Bah, je crois que c'est cette variété-là, en plus, sans pépins, et puis ils te les font pousser dans des moules pour que ça ait des formes de cœur, et puis je sais pas quoi, et puis ils te vendent ça à la peau. Et puis ils te vendent ça la peau des noix, quoi.
La peau du cœur.
Ah oui, oui.
Bon, bah, tout le monde a fini avec la question.
Ah oui, oui. Mm-hmm.
Et ton pote, là, il avait une réponse ou il est mort?
Non, non. La question l'a démoralisé. T'enchaînes ça, la bière au whisky, plus les lasagnes brûlées, ça y est.
Mika, tu veux répondre à la question? Je te pose une question, tu veux répondre sur le micro ou pas? Hein? Allez, viens. Viens. C'est bon, je l'ai retrouvé.
Ah.
Il écoute la musique classique sur le balcon, là. Non. Tiens, je vais te donner un micro et des écouteurs.
Là, tu vas entendre la réaction des autres.
Ou pas.
Faut que tu mettes ça genre cravate, tu vois.
J'ai besoin de moi.
Non, pour rien, je vais juste te poser une question. Mais est-ce que tu n'auras pas bénéficié de la culture économique? Alors, Mika,
oui.
Imagine que dans un mois, tu te retrouves propulsé, téléporté en l'an 1100.
Ouais.
Qu'est-ce que tu ferais pendant ce mois pour te préparer? Et pour toujours, hein. Genre, tu te retrouves propulsé pour toujours. Dans un mois, tu te retrouves dans l'an 1100.
On a le droit de ramener des choses de maintenant?
Non, t'es à Walpé.
Ah, je me retrouve
c'est
à quoi?
C'est genre retour vers le futur.
Bah, tu me retrouves à quoi, je m'entends.
À part t'éloigner de Morgane pour le reste du mois.
Ouais, ça, on est d'accord, ouais. Mais, non, mais putain, hein.
Alors, déjà, ouais, je vais t'apporter juste un peu de notre réflexion. Il y en a qui veulent apprendre l'artisanat pour apprendre à se débrouiller.
Ouais,
apprendre ce que le français que tu parles de maintenant, ça n'a rien à voir avec le français.
En fait, faut essayer de réapprendre un peu tout ce qui se faisait à l'époque.
Survival.
Les dialectes, tout ça, quoi.
Donc tu ferais quoi pour survivre? Vas-y.
Non, mais ça, c'est pas con, déjà. Apprendre à manier, on va dire, les outils, les anciens outils, quoi, pour s'en sortir, travailler.
T'apprendrais pas les streams ou des choses comme ça pour devenir un sacré guerrier?
Ben ça, je t'en sers, ouais. C'est pas un souci.
T'imagines, devant toi, t'as des gars comme la montagne, tu pourrais t'en sortir.
Bah, il faut une lance, comme Oberyn. Ah. Faut pas parler, quoi, c'est tout. Non,
Pour toi, juste le dialogue, ça suffirait.
Non, 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 pas du tout. Non, bah, quand je dis, faudrait apprendre... Ah ouais, faudrait apprendre l'ancien style de vie, quoi. De manière générale.
Comment cultiver une dame
Ah, ça va, il y avait les bordels, donc c'est pareil.
Ah bah, ouais, ça n'a pas changé, hein. Tu lâches la monnaie et...
Bah, il suffit de fabriquer ton franc par jour, ça suffit.
Ah, le faux monnayeur. Ah ouais. Ah, c'était pas bête ça, parce qu'à l'époque ça devait pas être
plus
facile que maintenant.
Ouais, t'apprends les monnaies de ce moment-là, t'apprends à les refaire, et ouais. T'es le roi du pétrole.
C'est vrai, c'est ça.
On n'est pas tombé sur la moitié d'or.
Non, voilà.
D'autres idées?
Bah, je pense que vous avez un peu plus, hein. Le travail, le combat, la langue. Je sais pas. Non, mais il y a un peu plus dans l'esprit comme ça.
Alors, qu'est-ce qui compte dans une vie? L'argent, le sexe, la carrière, de compter d'autres dans une vie. Parce que là, t'as l'occasion d'avoir commencé une vie avec 2000 ans d'évolution sociale, quoi. 1000 ans, pardon.
Ouais, 1000 ans.
Ouais, bon, enfin voilà. Ok.
Je sais pas. La monnaie, c'est tout. La monnaie.
La monnaie, c'est tout.
L'argent, il est
bah,
plus.
Bah, si t'es riche, bah.
Ah, la monnaie plus les putes. Réchauffement.
Non, mais non.
La monnaie pour payer les putes.
Regarde, tu prends les gens à cette époque qui étaient pauvres.
Je suis après le sida, les rapportes à Capote, gros.
Non, mais regarde,
il n'y avait pas le sida. Il n'y avait pas le sida. 80. Ah, c'est bon, ah ouais, c'est tranquille.
Mais il y a bien des MST, gros, tu chopais bien des.
Ouais, mais pas le sida. C'est fini, j'en sais rien. Mais.
Tu te retrouves avec trois champignons, mais ça va.
Ouais, c'est ça, sur la verge.
La fesse, ça suffit. Non, mais putain, tu m'as coupé, du coup, j'avais dit un truc, et tu m'as coupé, Morgan. Bah, je sais plus.
Tu as trouvé une autre idée, je vous connais.
Mais j'étais en train de... en parler, enfin... C'est toi, tu m'as lancé sur un truc, et j'allais te répondre, justement, et... Ah, je sais plus.
Il disait que t'allais choper le sida, si tu...
Mais, on avait dit l'argent, ouais.
Oui, non, oui, je disais, bah, parce que du coup, c'est des gens, okay, ceux qui étaient pauvres, bah, voilà, c'est ceux qui crevaient en premier, de manière générale, c'est ceux qui s'en sortent tellement bien, du coup... Quand je dis la monnaie, c'est pas anodin non plus, quoi.
Ouais, enfin, donc tu vas être un noble. Sortir. Tu vas être un noble.
Ah, pas forcément un noble, mais bien gagner sa vie, on va dire.
D'accord. Non, parce que Morgan, lui, il voulait être conquérant, lui, il est chef de guerre.
Il voulait être Morgan, chef de guerre.
Ah ouais, chef de guerre. Il voulait apprendre comment gérer les armées.
Ouais, ouais, non, mais oui. Non, mais moi je vois mal chef de guerre, hein, faut le connaître. Hein, le Morgan, là ça me fait rien. Ouais, mais c'est un utopiste, hein, Morgan, hein, il aime bien tout ça. Ouais. Non, Morgan, moi je le vois paysan, moi. Dans sa ferme avec ses animaux, son bétail.
Bah non, voilà. Il veut même pas apprendre à cultiver et tout, lui il voulait juste apprendre la géopolitique,
apprendre la
et puis devenir un croisé et tout.
Bon, le jury a voté, ce sera Morgan Le Gueux.
Voilà. Non, mais allez-vous.
Ce ne sera pas le conquérant.
Et John, toi tu serais quoi?
Je sais pas. Un mélange entre... Oh.
Je remets le micro, ça peut faire du bruit, les gars.
Le clergé, on va dire un mélange de clergé et de Rastafari. Le retour de
Rastafari. Il va cultiver les champs de weed avant le...
Bah techniquement, ils étaient déjà présents, hein.
Ah bon?
Mais...
C'est pas Napoléon qui a ramené la weed de...
Non, c'est lui qui l'a fait retirer.
Ouais, mais t'es, c'était pendant ces campagnes en machin, là, non? Je sais pas. Non,
non.
Oui, t'as peut-être raison.
Non, c'est comme les houblons, il y en a partout. Il l'a fait retirer parce qu'il remarquait que ces hommes n'étaient plus...
aussi vaillants.
Aussi vaillants, voilà, et puis qu'il y avait des... petites guéguerres et d'autres problèmes, tout comme l'alcool, d'ailleurs, mais il me semble, hein, après... je crois que c'était à Amsterdam que j'avais vu ça, au musée, je crois. Alors après, je peux me tromper. Mais il me semble que oui, c'était déjà présent et que je ne sais plus. Après, un peu plus loin, il y avait Van Gogh aussi qui avait créé des tableaux où on voyait derrière lui des champs. Ouais. Il me semble, hein. Mais bon, non, en plus le côté culture de la terre et d'empêcher tout ce qui est graines maintenant qui nous...
Mais attends, Monsanto, ils sont pas nés en 1100, ils sont nés là, il y a après-guerre, là, après la dernière guerre mondiale.
Oui, mais justement, tu sais ce qui se passe, donc c'est plus facile de comporter.
Ouais, mais justement, à l'époque, c'était que des graines.
Oui, mais de garder justement ça.
D'où à l'époque, avec ça.
Le clergé, entre guillemets.
À l'époque, il y avait que ça. Et tu vas pas vivre 1000 ans, hein. C'est pas parce que tu vas 1000 ans en arrière que tu vas vivre 1000 ans.
Mais je pourrais faire le Nostradamus. Attention!
Ah, tu veux avertir! Tu veux avertir!
Ah,
tu veux avertir!
Ah bah, ça marche bien avec son côté religion. Lui, il va prophétiser la vérité.
Eh ben oui!
D'accord.
C'est ça! Comme ça, ceux que je laisse dans le passé, mais ça, qui en fait exactement... le futur, seront meilleurs.
D'accord.
Dans la reco que j'ai fait de livre, Martyr, moi bon, je vais spoiler un peu, mais en gros, il y a un mec qui devient prophète parce qu'il vient du futur, il est retombé 1000 ans en arrière.
Ah oui, ça.
Et lui, justement, il a fait sa religion et il a prophétisé les choses.
C'est pour ça que je mélangeais en fait le côté Rastafari et clergé, pour faire plus le Nostradamus, tu vois. Attention, ils vont nous écouter partout.
Et dans 1000 ans, un podcast sera ultra à la mode. Ça s'appelle l'apéro des papas manger. Bon, en tout cas, voici nos réponses. Vous, chers auditeurs, si vous avez d'autres réponses, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par commentaire. Je serais très curieux de savoir ce que vous feriez. Je pense qu'on essaierait de faire. Enfin, ce serait bien si des auditeurs commentaient à nos questions, s'ils ont des idées, des meilleures idées que nous, et qu'ils nous partagent leurs réponses. Comme ça, on répondrait dans l'épisode suivant. Ça pourrait être sympa. Mm-hmm.
Ce serait intéressant de faire une fois un truc comme ça avec un Stropol ou comment on appelle ça déjà? Le truc là pour
les capsules.
Oui, l'équivalent comme le Framadat, mais pour les questions et tout là. Je me rappelle plus comment.
Tu veux dire avec des
un formulaire?
Voilà, comme un formulaire, mais de manière.
De manière.
Libre. Plus les pas les formulaires Google quoi.
D'accord, Framaform.
Ouais, ah ouais, voilà, c'est celui-là, ouais.
Il y en a tellement des Frama quelque chose, je pense, des Frama et toi.
Ah oui!
T'es perdu.
Ou autre bon. Chose, hein, c'est parce que nous, on est très,
roi de
on
la
est très
transition.
Amoureux de Framasoft.
Roi de la transition. Alors, roi de la transition, c'est à toi.
Ah, est-ce que c'est juste ce qu'il y a en dessous?
Non, on va passer à tout ce qu'il y a tout en bas, peut-être.
Pour Morgane ou pour Fabrice?
Bah, pour moi, parce qu'après, j'ai d'autres choses à dire.
Ah, alors nous disions que pour partir en 1100, il nous faudrait acquérir des connaissances.
Des trucs et astuces, oh pas mal.
Des
pas
trucs et astuces.
Mal. Pas mal.
Et Fabrice va nous en donner quelques-uns. En parlant de recherche et de se documenter, tu as des petits trucs et astuces pour retrouver une commande.
Ouais, alors j'ai entendu dans un podcast que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Alpinux.
Oh, ah. Oh putain, hey, on aurait réussi à le manger 3 fois, sérieux.
Ouais, je crois que vous avez fait, ben justement, dans votre podcast, vous aviez parlé justement du pseudo Bang Bang.
Ouais.
Ouais, mais ça, c'est...
Moi aussi, je me fais Bang Bang souvent.
Ouais. Non, mais ça, c'est par contre, voilà. Ça, c'est copyright blog Linux.
Pourquoi? Eric?
Ah oui.
Non, mais c'est...
Donc du coup, faut dire sudo !!
pour passer outre le copyright. Non, mais en fait, ça venait de chez eux. Moi, je l'ai repris dans mon blog. Ils l'ont repris parce que c'était dans un commentaire, etc. Et toi, tu l'avais repris, donc c'était rigolo. Et moi, du coup, j'avais envie de reprendre le contrôle R quand on est en ligne de commande pour retrouver une commande qu'on avait passée avant. Parce que du coup, je l'ai entendu, je l'ai essayé, et c'est vraiment formidable.
Ah ouais, ça a changé ma vie.
Ouais.
Okay. Là, et pendant l'épisode, j'ai validé un commentaire sur le podcast où le mec il donne même encore une meilleure astuce. Bah, vous irez lire les commentaires sur cet épisode où le contrôleur, en plus de proposer uniquement au lieu de proposer uniquement la dernière commande, il propose un historique de commandes qui match avec ce que t'as tapé.
Ah, mais si tu fais en fait.
Et tu peux naviguer dans l'historique.
Je sais plus, tu commences à taper un truc, tu fais contrôleur et il te met directement la commande qui correspond en fait.
Ouais, la première, tu tapes une deuxième fois la deuxième, ouais, la troisième fois la troisième. Ouais. Là, lui, ce qu'il te dit, c'est que tu vas taper contrôleur et tu vas voir genre, tu sais, comme sur Google où tu peux le suggest là. Mm-hmm. Où t'auras l'historique dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième.
D'accord.
Enfin voilà, il a lâché l'astuce en commentaire.
Bon bah, pas mal du tout. Donc en plus, il faut qu'on aille lire les commentaires.
En plus.
Et donc, pour récupérer la commande d'un commentaire, il faut faire un copier-coller. Tu as une astuce pour ça aussi?
Oui, parce que...
Vers le terminal.
Parce que quand on... Enfin, je sais pas comment vous faites vos copier-coller, vous... au clavier, enfin, on peut faire copier-coller.
Contrôle shift.
Ouais, voilà, on fait copier-coller, on peut le faire à la souris, mais au début, on fait contrôle C, contrôle V, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, et dans un terminal, ça marche pas du tout. Hein, je sais pas ce que t'en penses, John.
Bah, moi, j'utilise la souris, parce que justement, je me fais avoir à chaque fois.
Voilà. Et donc, j'utilise la molette, c'est ça? Clic molette?
Clic droit. coller.
Copier-coller. Mais...
Ah, c'est perte de temps ce truc.
Ouais. Mais donc, si on veut faire un copier-coller au clavier, ben, dans un terminal, il faut appuyer en plus sur le Shift. Donc, Ctrl-Shift-C pour copier et Ctrl-Shift-C pour coller.
Est-ce que tu sais pourquoi appuyer sur le Shift ?
Ben non, j'en sais rien du tout.
En fait, Ctrl-C, ça kill un process.
Ah oui, oui. C'est vrai, oui, oui.
Except... Alors, du coup, il fallait faire le Shift.
Oui, effectivement.
Mais pour lever, de coller.
Bah, c'est pour rester cohérent avec le Shift C.
Mm-hmm. Bon, on va se coucher moins bête ce soir. Hein. Et donc, tant qu'on est dans le Shift, eh ben, on est dans les majuscules. Donc, je vais me faire ma transition tout seul.
Je vais applaudir à chaque transition bien foutue.
Bon, et par contre, là, on quitte. Enfin, si, ça marche dans le terminal, mais bon, globalement, les majuscules, on s'en fout un peu dans le terminal. C'est sous Linux, comment on fait pour commencer une phrase avec une lettre
accentuée. Moi, je suis curieux parce que j'y arrive jamais.
Eh ben, c'est assez simple. C'est Shift Alt GR et puis ta majuscule, donc le, enfin, ton caractère accentué. Donc, c'est l'objectif, c'est de faire un E ou un A accentué. Eh ben, on fait Shift Alt GR. Le E, le A ou le CCD, ça marche aussi pour dire ça va. Et ben, on fait Maj, Alt, GR et le caractère.
Attends, moi, Maj. Ah, Maj, Shift.
Ouais, le Maj ou Shift, c'est pareil.
Shift, Alt, C. Alt, moi, ça me fait le Corporate.
Alt, GR.
Oui, Alt, GR, pardon, Shift, Alt, GR, C, ça me fait Corporate.
Ah, c'est que t'as pas.
Alors, attends, la subtilité, c'est que je suis sur un clavier allemand.
Ah. Non, mais moi, je parle pour les claviers français.
Attends.
Ça marche pas pour les autres.
Ah, j'ai peut-être trouvé la CDI. Non, ça fait $1. Merde.
Tu connais, John ? T'as essayé ? Avec ton clavier tout pourri.
Bah, justement, c'est ça le problème. J'ai peur qu'une des touches soit pas prise en compte et que je coupe l'enregistrement ou que je coupe le mumble ou que je coupe tout d'un coup. Là.
Bon, bah, vous essaierez plus tard alors. Quand vous aurez un PC.
Moi, comme c'est un clavier AZERTY français, n'est-ce pas ?
Non, ça marche pas sur le clavier allemand. Alt Shift sur le E majuscule, ça fait.
C'est pas le Alt, hein. C'est pas le Alt, c'est le Alt GR.
Ouais, Alt GR, pardon, le Alt qui est à droite. Et... À droite de la barre d'espace.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Mais t'as un CCD sur ton clavier allemand ?
Ouais, mais en fait, je t'explique. Le CCD, il est sur le 4. Tu sais, genre, t'as 4 et en haut, t'as des lettres.
Ouais.
Bah, il est sur la lettre en haut.
D'accord, parce que nous, il est sur le 9. Enfin, sur le clavier français, monsieur.
Sur le 9 ? Eh ben, ouais, bon.
Oui.
Bon, alors, je vais pas dire.
Et sur le 4, c'est la virgule.
Non, c'est pas la virgule, c'est l'apostrophe.
L'apostrophe.
Et t'as pas d'accent, t'as pas de comment dire, de E sur ton clavier.
Si, justement, j'ai E, E, A, machin.
Et alors, t'as essayé ?
Ouais, et ça marche pas, ça me met en. Pour le. Le E,
non, mais en
ça
fait,
met un
son clavier, degré. C'est un clavier allemand chinois.
Ouais, non, là, c'est ça marche pas du tout pour moi. Mais je testerai sur un clavier français parce que c'est vraiment le truc que j'arrive jamais à faire.
Bah, normalement, c'est
Shift, ouais. Alt, GR.
Ouais. Okay. Et c'est pareil, depuis que j'ai utilisé, c'est des trucs en fait, t'y penses plus quand tu l'utilises, tu te dis ouais, quand tu le trouves, c'est formidable. Puis après, t'y penses plus, tu le fais par réflexe. Mais en fait, il y a plein de gars qui galèrent. Puis des fois, dans des forums, tu retrouves à chaque fois les trucs. Ah, en fait, comment t'as fait pour parce que là, j'ai lu un commentaire comme ça. Le gars, il demandait s'il y avait pas un clavier BPO, parce qu'effectivement, sur le clavier BPO, t'as les accents comme ça, les majuscules accentuées. Mais le clavier français de base,
tu vois,
tu l'as pas.
Faire une lettre. Je prends je vais avoir une remarque plus une question. La remarque, tu prends une lettre, tu vois, autant tu vois le E, puis le E accent, il peut être c'était le CCD. Le CCD, il est pas sur le 4, mais il faut faire Shift 9, tu vois, pour l'avoir le CCD. Mm-hmm. Quand la lettre, elle est à une touche d'intermédiaire entre, tu vois, genre, pour appuyer sur Shift ou sur FN pour l'avoir, ça va. Mm-hmm. Quand il faut commencer à faire des Ctrl Alt ou des Shift Alt GR la lettre, ouais. Là c'est au-dessus du commun des Français, enfin c'est au-dessus du commun de la population, mais vraiment quoi.
Ouais, ouais. Ouais,
donc déjà sûr. Pour avoir ces lettres, c'est ultra compliqué. Là t'es sûr qu'il y a 95% des gens qui ne savent pas faire.
Mais après t'as Grammalect qui te corrige.
Voilà, oh là. Et on va devenir les pros de l'auto.
Et puis grâce à nous, maintenant ils le sauront, grâce à Fabrice.
Ouais, grâce à Fabrice. Et donc ça,
mais
c'est ma.
Il faut avoir un clavier AZERTY.
Ça, c'était ma remarque, la question. Mm-hmm. Comment t'as découvert ça ? Parce que moi, je le savais pas, hein. Et je suis informaticien.
Comment j'ai découvert ça ? Je pense que ça doit être au hasard de forum ou de discussion sur Diaspora, un truc comme ça. Non, sur des blogs, peut-être, j'en sais plus. Ben, je sais plus.
Dans un recoin du deep web.
Non, non,
à côté,
non,
à côté des tueurs à gages, des vendeurs de drogue.
Non, non.
Les combinaisons du clavier caché.
Oh, John, t'es trop fort.
Non, en plus, c'est implémenté depuis un moment, je crois. Mais c'est sous Linux, ça seulement. Je pense que sous Windows, ça marche pas. C'est les, la configuration du clavier sous Linux qui permet ça.
D'accord.
Voilà.
C'est vrai que, genre, donc... sur Windows, t'as les contrôles de merde. Genre, Alt-Tab, ça change. Non, Ctrl-Tab, ça te passe en QWERTY. D'accord. Pourquoi ?
Alt-Windows, ça te ferme ta fenêtre.
Ah ouais ?
Enfin, ça te la réduit. Ça te change de.
Ah, je ne connaissais pas celui-là.
Si, si. Hein. Ou en tout cas sur Steam.
Et toi, Fabrice, et toi, John, t'as pas de Geekry Je t'ai rien vu en Geekry.
Ah, non.
Il essaye si, de passer en clavier physique.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ça va me coûter cher. Et non, mais à la place, si, on peut mettre ça dans Geekry. Écoute, je vais partir en vacances dans un pays chaud. Et quelque chose qui... Ça veut, c'est peut-être marrant, mais ce qui me fait toujours flipper étant fumeur, c'est le briquet dans la poche.
Pourquoi ?
À cause de la chaleur, je sais pas. Je, inconsciemment, j'y pense tout le temps, hein, et s'il pète ?
Bah pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud, il devrait péter.
Non, mais par exemple, quand t'es en jean et que le pli du jean appuie sur le gaz.
Ouais, bah ça va faire du gaz.
Voilà.
Et quand tu pètes, ça fait du gaz, hein.
Oh la remarque!
Mais bon,
oh,
remarque. Il est rare que des étincelles viennent sur mon derrière.
Ouais, mais tu peux pas appuyer en même temps sur le. Enfin, si tu libères le gaz, tu n'appuies pas sur la molette pour faire les étincelles.
Oui, mais tu peux avoir très bien une étincelle.
Dans ta poche, regarde.
Poche, mais le gaz passe à travers.
Dans ta poche, le gaz s'est libéré, du coup il est enfermé dans ta poche. En remontant voilà. Le briquet, si jamais ça fait une étincelle avec la molette.
Ouais, mais attends, ton pantalon, tu t'habilles en pantalon en. Comment dire, imperméable.
Oui, non, mais.
Tu t'habilles en sac.
Non. Non, non, mais justement, c'est pour ça que je disais c'était. Mais j'y pense toujours, quoi, ou dû à la chaleur, etc.
Donc t'as peur que la phobie du briquet qui explose dans ta poche.
Avant que ton briquet voilà. Explose, tu seras desséché. Hein.
Oui, je pense aussi, mais...
C'est sa phobie.
Voilà. Ah,
okay.
Et donc
c'est quoi, ton
coup,
truc?
Je me suis pris un petit briquet USB en allume-cigare.
Tu t'es acheté un briquet USB?
Ouais. Et alors tu vas faire comment pour brancher?
Tu préfères... Ouais, grave. Ton clavier tout pourri, là, tu préfères pas t'acheter un clavier USB bien?
Ouais.
Non, toi, tu t'achètes un briquet... C'est le mec, il a le briquet USB, le ventilateur USB, là.
Bah, du coup, écoute, il a plus de place, donc il
briquet, le briquet, je l'ai eu à 1,50€ sur eBay. Le clavier, je ne l'aurais pas à celui-là. Et j'ai testé.
Et il marche?
Et c'était, en fait, avant que
j'ai
des problèmes de clavier. Et il marche super bien.
Et du coup, ça fait...
C'est un petit allume-cigare.
D'accord, c'est un allume-cigare.
C'est vraiment un allume-cigare.
Mais sauf que
t'as deux positions.
Quand t'es en voyage, tu le branches où ton allume-cigare, t'es gentil.
Donc tu peux pas allumer le charbon.
Mais tout le temps.
Mais t'as une prise USB sous la main à chaque fois que t'es en voyage, toi.
Il a la batterie ouais. Portable pour charger son téléphone.
Exactement. Exactement.
Je m'en suis acheté une tout à l'heure, alors.
Mais
du coup, tu craves ta
batterie. L'autonomie, elle est bonne, justement.
D'accord.
Comme c'est un allume-cigare.
Que, c'est un peu plus encombrant quand même, du coup.
Ah non, c'est la taille d'un briquet big.
Ouais, mais bon, la batterie, elle est plus encombrante. La batterie plus le briquet...
Oui, mais
tu sais,
de toute façon,
sinon,
la batterie...
t'as des allumettes aussi, hein. C'est bien, hein, les allumettes. C'est très... ouais, c'est très... 1100. 1100, les années 1100, c'est très...
Tu rigoles, tu vois, ils avaient les allumettes en 1100, toi. C'est ouf, toi.
Non, mais...
ils avaient quoi? Ils avaient juste la pierre à feu? Non, ils avaient déjà quelque chose, elle dit.
C'est une bonne question. Comment
ils avaient... Non, il y avait.
Bon, il faut apprendre à faire du feu hein, avant de partir.
Oh, du silex et puis. Le
ah, c'est vrai,
du
quelle année,
non, la pierre à feu.
En quelle année on a automatisé le feu?
Bah, il y a un bail, hein. Il y a un bail. Dis.
Attends, mais parce que moi je connais le briquet, je connais le. Mais,
attends, il s'allumait aux bougies. Il faisait pas un feu avec un bout de bois et un.
Ah ouais, mais comment. La flamme. Si t'as pas de bougie, comment tu fais?
Attends, l'invention du briquet, elle date, hein?
Bah, avec de la graisse animale.
Hein? Avec de la graisse animale, tu fais du feu?
Oui. Ça te sert de combustible.
Oui. Oui, avec l'huile, il faisait que ça dure longtemps les torches, mais comment il les.
Eh bah. Bon, avec une pierre à feu.
Ça a creusé, tu vois, ça fait partie
ou
des.
Ou un briquet USB, et puis voilà.
C'est partie des recherches que tu ferais dans le mois, ça, tu vois.
Et donc voilà, ouais, il y a une petite.
John, moi j'ai juste une question à propos de toi.
Ouais.
Est-ce que t'as des problèmes d'achat compulsif?
Non.
J'ai l'impression dès que tu vois un truc pas cher, faut que tu l'achètes. Genre, putain, il y a des jeux à 50 centimes, faut que je l'achète, je m'en fous s'il marche sur mon PC. T'as
non.
Un briquet USB, oh, faut que je l'achète.
Ouais. Non, le briquet USB, c'était plus pour le tester. Et puis, l'avantage, justement, c'est même si t'as pu, comme ça prend pas beaucoup d'énergie, tu le branches ne serait-ce que 2 secondes, il est déjà assez rechargé pour que tu puisses allumer.
Ouais, les allumettes, elles datent de l'Antiquité.
Ah, sérieux?
Ouais, source Wikipédia.
De l'Antiquité?
Ouais.
C'est quoi que tu mets dans le.
Dès le 6e siècle.
Le phosphore, là, ils connaissaient déjà ça?
Dès le 6e siècle, enfin, en Chine, dès le 6e siècle.
Du soufre.
Il y avait du soufre, des bâtonnets de pain imprégnés de soufre. En Chine, dès le 6e siècle.
Avec du soufre.
Et le briquet d'acier était connu des Romains.
Ah, je suis impressionné, hein.
Mm-hmm.
Je suis impressionné. Franchement, j'ai le respect pour les cultures anciennes, c'est un truc de ouf.
Non, tu vas arriver en 1100, tu vas te dire, oh putain, ils ont déjà inventé Internet.
Et c'est pas cette période-là qu'avaient été créées les premières tours de communication?
Ah ouais, ça date du 2e siècle, hein, les allumettes.
Comment s'appelaient ces tours là en France là?
Au Moyen-Âge, les allumettes étaient faites de roseaux et fortement soufflées. Putain.
Ouais, et puis là, pour le coup, t'avais pas intérêt de les mettre dans ta poche, quoi.
Oh, putain, pour le coup.
Ah, c'était les allumettes.
Déjà, c'est pour ça qu'en France, elles ont été interdites, là, celles que tu grattes.
Ouais, celles que tu grattes.
C'est pour ça qu'on en trouve plus, d'ailleurs.
Comment ça, les allumettes que tu grattes, c'est interdit?
Ouais, en France, oui.
À la vente,
tu peux pas en
acheter. À la vente, t'en trouves pas, non, ça fait super longtemps que t'en trouves plus, ouais.
Tu rigoles.
Si tu veux en faire des comme ça, faut que tu te les fabriques toi-même.
Non,
mais les allumettes que tu grattes papier à gratter.
Non, que tu grattes contre une surface rugueuse.
Comme dans les westerns, style.
Tu sais, tu les sur l'arrière de l'arrière de ta chaussure là.
Putain, j'ai toujours cru que c'était un mythe.
Moi j'en ai eu. J'avais un
pote. Sérieux, ça existait, ça a marché ce truc-là?
Ah ouais, bah ouais, bah c'était avant, c'était comme ça.
Dans certains pays, ça existe encore.
Sérieux?
Ah ouais.
Ah putain les gars, je vous jure, je croyais que c'était un mythe des dessins animés.
Non, ça existe.
J'ai toujours essayé de le faire contre mes doigts, contre
les jeans. Ah non, ça marche pas avec.
Ça a jamais marché.
Ça marche pas avec les allumettes normales.
Pour la blague, moi j'avais déjà fait croire que je pouvais le faire aussi. Plus simple, j'avais collé.
Ouais, entre les doigts.
Sous mes pieds, j'avais collé sous la semelle une petite bande de papier.
De bande d'allumettes.
Ouais.
Ok, je vais passer à Geekry.
Ouais, parce qu'on s'est
alors, loin, hein. Après s'être acheté un clavier, un ventilateur USB, moi j'ai voulu m'acheter un nouveau téléphone.
C'est un peu plus cher, hein.
C'est un peu plus cher, mais je vais vous raconter un petit peu mon expérience.
Qu'est-ce que t'avais avant déjà?
Alors, avant j'avais un BQ, enfin sous Ubuntu Touch.
D'accord.
Avec l'arrêt d'Ubuntu Touch et mon téléphone qui m'a lâché, j'avais racheté un Nexus 5 à un pote. Genre d'occasion, et puis le Nexus 5 m'a lâché. D'ailleurs, à mon avis, il doit peut-être être récupérable, mais en gros, il s'allume plus. Genre, c'est comme si la batterie marchait pas. Genre, quand il est sur secteur, j'ai les menus, je peux faire du hard reboot, et quand je fais le hard reboot, en fait, il redémarre en boucle. Enfin, c'est genre comme le hard reset, pardon. C'est comme si ça marchait pas. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref. C'est une brique pour le moment, ce téléphone. Je me suis dit, je vais m'en racheter un. Mon critère pour un téléphone, c'était d'avoir un téléphone pas consommable, c'est-à-dire je voulais au moins que la batterie et l'écran soient changeables facilement si je le casse.
Mm-hmm.
Parce que quitte à réinvestir genre 300 balles dans un téléphone, je veux qu'il puisse me durer au moins 4-5 ans.
Mm-hmm.
Donc tu élimines déjà 90% des téléphones sur
exactement.
Le marché en ce moment.
Exactement.
Et c'est quoi ton budget?
Je m'étais dit dans les 300 balles et puis je me suis dit allez tiens on va faire le Fairphone, mais le Fairphone est plus dans les il est ultra cher et plus dans les 100 balles. Mais je me suis dit le Fairphone au moins il y a tout qui est changeable. Si une nouvelle version sort, tu peux upgrader la caméra. Enfin, c'est vraiment un bon téléphone.
Mm-hmm.
J'ai voulu acheter un Fairphone. Donc, dans l'urgence, mon téléphone qui me lâche. Pas possible d'acheter un Fairphone avant septembre. J'étais en juin. Quatre mois d'attente.
Ah ouais, ouais.
4 mois d'attente pour un téléphone, c'est pas possible.
Ouais, c'est un peu long. Ouais.
C'est pas possible. Donc voilà, même pas en rêve. Du coup, j'ai
tu
voulu.
Tu as choisi un iPhone.
Non, du coup, j'ai été sur les sites de comparaison de téléphones. Et en fait, faut savoir que... Non, on va changer. J'ai changé l'ordre de mes bullet points. J'ai été sur un site qui s'appelle iFixit. ifixit.com/smartphone reparability. Enfin bref, vous trouvez le lien dans les notes de l'émission. Ce truc-là, ça te note les smartphones en fonction de leur réparabilité, à quel point ils sont faciles. Alors évidemment, 10 sur 10, le Fairphone. Mm-hmm. Mais t'as aussi les Nexus, t'as d'autres téléphones.
Moi, j'ai pris un téléphone. 20 sur 10, le 3210.
Bah, si vous avez visité le lien, vous pouvez voir les téléphones. Mais moi, j'en ai pris un qui est noté 7 sur 8. 7 sur 10, pardon. C'est le Meizu. Voilà. En gros, juste pour changer l'écran, il faut juste une ventouse. Bon, faut acheter le matos, mais ça coûte pas trop cher. Et en gros, t'as juste une ventouse pour décoller l'écran, et puis ça marche bien. Je vois le téléphone d'une amie, c'était, elle avait un Samsung, il est noté 3 sur 10. Et bah, elle a l'écran qui a pétré. Pour changer l'écran, il faut faire fondre la colle avec des coussins chauffants, retirer la batterie. Enfin, en gros, retirer tout le téléphone pour arriver au dernier coup qui est l'écran et le changer. Le truc qui est ultra chiant à faire.
Et ultra cher si tu passes chez un...
Exactement.
Elle
a demandé 300 balles pour faire passer chez un mec.
Voilà.
Le téléphone en valait 709 et maintenant il a 2 ans d'ancienneté. C'est même plus... Enfin bref. Moi je voulais un téléphone, du coup j'ai pris le Meizu machin. En fait c'est une copie chinoise de l'iPhone. Je dois le dire, j'en suis ultra content. Mais avant de faire... j'ai hésité entre le LG qui a la batterie, genre c'est vraiment tu clipses un truc du téléphone et tu peux changer la batterie. C'était le LG, attends, bah, j'ai regardé le truc. Alors, attends que ça charge. C'était le LG G4, G5, voilà, qui était vachement bien. T'as le Nexus 5 qui est noté 8, enfin, t'as plusieurs téléphones. Il y avait les nouveaux Google, les Pixel, Pixel XL et tout ça. L'iPhone 7, mine de rien, est noté 7 sur 10 aussi.
Ouais, je vois qu'il est pas trop mal placé.
Mon Meizu est noté 7 sur 10. Donc, moi, j'ai le Meizu M10. Alors le désavantage qu'ils disent, c'est les vis qui sont pas communes, on va dire, c'est pas grave. Voilà. Et donc je me suis fixé sur site. Après j'ai été voir sur les sites de comparateurs. Et souvent ils disaient bah non, la batterie elle est pas changeable. Bah non, tu peux pas mettre de carte SD. Ah oui, parce que un point important aussi, c'est l'extensibilité. Ouais, ton téléphone il fait 32 Go, mais je veux rajouter de la musique, je peux rajouter une carte 30 Go SD. Et là, c'est là que tu vois que la plupart des téléphones, ils sont pas extensibles en mémoire, la batterie n'est pas changeable, ou quoi. Et là, en fait, les sites de réparation, les sites de comparaison, ils disent beaucoup de merde. Souvent, ils disent, ouais, la batterie, elle n'est pas changeable, alors que, en fait, quand ils disent, tu vois, ils le disaient pour le LG G4 qui a été changeable, parce que c'est juste un clips à faire, et tu changes la batterie et tu reclipses. Du coup, là, ils disent, c'est changeable. Par contre, pour mon Meizu MX6, il disait non, c'est pas changeable. Alors qu'en fait, j'ai regardé sur iFixit, il dit bah si, elle est changeable, c'est même très facile. Voici le tuto pour le faire. C'est fait en moins de 10 minutes.
C'est une histoire de vis.
Voilà, ouais, c'est ça. En gros, c'est juste qu'il faut démonter le téléphone. Mm-hmm. Alors, comme ils partent du principe qu'il faut que tu démontes le téléphone pour changer la batterie, et bah ils disent bah non, c'est pas changeable parce que ça peut faire péter la garantie si tu le changes dans les moins de 1 an. Du coup, voilà, le résultat bon, de mes geekeries, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais. Faites attention parce que sur les sites de comparaison, ça donne toujours des infos pertinentes et pas toujours vraies, notamment sur la batterie. Donc préférez les sites de genre iFixit qui vraiment te note la démontabilité de ton téléphone. Mm-hmm. Bon, une fois que j'ai choisi mon téléphone MX6, je le commande sur Amazon. Sachant qu'en Chine, il valait genre 250 euros, sur Amazon 320, si j'achetais en boutique 370-380. Bon, j'ai acheté sur Amazon pour avoir la française garantie plutôt que sur les chinois. Parce qu'apparemment, sur les sites chinois, genre quand tu l'achètes et que tu veux te le faire rembourser, si t'as un problème dans le transport, c'est la croix à la bannière. Donc, je l'ai acheté sur Amazon.
Ah, il faut que tu le reçois.
Voilà, il faut le recevoir. C'est ce que, ouais, si tu le reçois pas, c'est la croix à la bannière pour te faire rembourser. Du coup, je choisis, je paye un peu plus cher, mais je prends Amazon. Amazon, je commande de haut taf mon téléphone. Je reviens chez moi, j'essaye de me reconnecter, ça marche pas. Moi, je me dis merde, j'ai zappé mon mot de passe. Je fais oublier de mot de passe, voilà, je change mes mots de passe et tout. J'attends une semaine, j'ai toujours pas de téléphone. Je les contacte, je fais, ah les gars, j'ai payé mon téléphone, j'ai toujours pas de téléphone et tout. Je parle de ça, moi je rentre du... Genre il est 19h et quelques, donc tous les services après-vente normalement sont fermés. Amazon sont toujours ouverts. Je les appelle au téléphone, ils me répondent en moins de 5 minutes. Le mec il me dit, ah ouais mais monsieur, c'est bizarre, je vois pas votre commande. Votre commande a été complètement effacée. Je la revoyais plus dans ma liste des commandes, lui il la voyait plus et tout. Et en fait, il m'explique, quand t'as passé une commande, que t'as changé ton mot de passe peu de temps après, ils annulent la commande parce qu'ils partent du principe que tu t'es fait pirater ton compte. Donc, j'ai perdu une semaine à attendre un nouveau téléphone, mais les mecs, ils ont annulé la commande.
Et toi, tu le voyais pas dans son historique ?
Je le voyais pas dans l'historique, j'ai pas reçu d'email, j'ai pas reçu rien. Mais c'est ça que je reproche un peu, c'est que tu vois, ils font ça un peu en loose day. mais au moins ils annulent la commande, ils te débitent pas et ils partent du principe que ça peut être un piratage et tu peux recommander le téléphone derrière. Donc à la fois un positif, à la fois un point positif pour ma sécurité, à la fois un point négatif pour la transparence. Et pour ça, Amazon, respect par respect. Mmh.
Mitigé.
Mitigé, mais plutôt dans le bon sens quand même. Juste
parce
la
c'est que toi, tu voyais pas dans ta commande qu'elle avait été annulée.
Et pire que ça, je les ai contactés à la base parce que je dis putain, ça fait peu que j'attends. Je la vois, elle apparaît même pas dans ma liste des commandes, dans mon historique des commandes. Je
fais ah ouais, quoi donc. Ouais, donc t'as vu quand même qu'elle apparaissait plus.
Ouais.
Ils auraient pu mettre au moins annuler risque de piratage,
exactement.
Ou un truc comme ça.
Voilà. Ouais. Et ils ont dit, le mec, il a contacté, enfin, il a dit, ah ouais, j'ai demandé, c'est normal tout à fait, quand on change le mot de passe, ça annule les commandes.
Ouais, du coup, voilà. Ça serait bien de le savoir.
Voilà.
C'est pareil, quand tu changes ton mot de passe, il pourrait te dire juste avant un message, attention, si vous avez fait une commande moins de 24 heures avant, elle sera annulée parce que ça risque d'être un piratage. À la limite, qui te laisse pas faire de commande juste après avoir changé le mot de passe.
Non, j'ai fait ma commande avant et j'ai changé le mot de passe après. Mmh. Genre, j'ai changé de mot de passe genre 2 jours après, hein, vraiment.
2 jours, hein,
ou,
c'est quand même.
Jour le lendemain ou le jour d'après, je sais plus.
Ah, d'ailleurs, je pense que tu fais comment pour changer ton mot de passe, parce que sur Amazon, il me semble que j'ai jamais réussi à le faire, moi.
Ben, j'arrivais pas à me connecter, il y avait mot de passe oublié, machin.
Ah.
Faut répondre à une question secrète et il te renvoie par mail.
Mmh. Ah, d'accord.
Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Rose. Rose, c'est lié. Enfin bref, voilà, c'était mon expérience Amazon. Sinon, j'ai une deuxième geekerie un peu. Est-ce que vous connaissez Mozilla Stumbler?
Non, ça me dit rien.
Ok, non, faut que vous connaissiez.
Vas-y.
J'ai découvert ce machin. En fait, Mozilla Stumbler, c'est un truc qui va scanner tes réseaux Wi-Fi, prendre ton point géographique et les envoyer à Firefox, enfin à Mozilla. En fait, quand il y avait Firefox OS à l'époque, pour leur système de cartographie, ils voyaient bien que c'était la merde. Et pour aider à te localiser plus rapidement, parce que souvent dans les villes, faut pas se mentir, mais t'as pas de GPS parce que t'es entre des immeubles ou quoi, et tu reçois pas les vraies données GPS. Ou alors c'est ultra dur de te localiser entre des satellites, parce que il y a genre 40 satellites à scanner les uns après les autres pour savoir s'il arrive à te scanner. Donc ça peut prendre genre une demi-heure de scanner ta vraie position. L'astuce, c'est qu'avec tes réseaux Wi-Fi, t'as déjà pré-géocalisé que ce réseau Wi-Fi se situe à cet endroit. Tu captes ces Wi-Fi, ok, t'es sur ce satellite à telle position. Ou quand tu perds le GPS dans la ville, et ben il voit, ah ouais, il y a tel réseau Wi-Fi autour, et te localise. Et ben pour aider Mozilla là-dedans, Firefox OS avait créé Mozilla Stumbler, qui est en fait une appli que tu mets sur ton téléphone qui scanne les enfin genre tu mets genre tant que j'ai 75% plus de 75% de batterie, tu me scannes mes réseaux Wi-Fi, tu prends ma position GPS et puis tu l'envoies à Firefox. Du coup, ça aide la cartographie. Et en plus de ça, ça l'envoie à OpenStreetMap.
Ah.
Du coup, ça faites ça, installez cette application sur votre téléphone, installez sur l'application de vos proches et dès qu'ils vont se déplacer dans votre ville ou quoi, ça va pouvoir aider à améliorer les cartographies alternatives à la Google Maps. Ça coûte rien du tout et c'est vraiment pas mal. Et je connaissais pas l'initiative, j'ai découvert vraiment genre 3-4 ans après, mais c'est vraiment pas mal.
Ouais, donc du coup, ça fait une triangulation, comme le système de triangulation des bases pour un numéro de téléphone, les... Comment on appelle ça ? Les antennes ?
Ouais,
sauf que là,
alors,
ça te fait avec
les
Wi-Fi.
Antennes, tu captes les Wi-Fi. Tu captes ton GPS, c'est ça, il capte les trois, les antennes relais, le Wi-Fi et la position GPS, et il l'envoie. Donc c'est vraiment une bonne appli, et installez-y sur les téléphones de vos proches. Alors là, je vois Fabrice qui dit que c'est notre en live,
oui.
Juste, c'est pas MAJ, pour moi MAJ ça veut dire caplog, enfin tu vois, genre le 0 I majuscule, faut dire shift dans tes contrôles clavier.
Ouais, mais ça c'est de l'anglais, MAJ c'est en français. Et moi, c'est marqué MAJ sur mon clavier. Enfin, là, ils vont rien comprendre, les auditeurs.
Et moi, ouais, ils vont rien comprendre. Couper, moi, c'est une flèche vers le haut sur
ouais,
le mien.
Ouais, flèche vers le haut, voilà, c'est ça qu'il faudrait même leur dire.
Ouais, voilà. Mais je suis
flèche
d'accord, shift ou MAJ. Shift ou MAJ. Mais Caps Lock, c'est vers MAJ. C'est verrouillage majuscule.
Ouais.
D'ailleurs, il me semble que c'est une des...
Un cadenas, souvent.
Ouais, il me semble que c'est une des touches qui doit plus ou moins disparaître, qui est plus jamais utilisée, tout ça, et puis qui prête à confusion. Tu sais, il y a, je sais pas, ça fait peut-être partie des news. Ils ont proposé un nouveau, il y a le l'AFNOR,
un clavier,
je crois.
Ouais.
Clavier.
C'est l'AFNOR, ça, qui propose un nouveau clavier avec des nouvelles dispositions, justement, avec les accents, etc., plus accessibles. Et tout ce qui est utilisé en langue française, plus accessible. Et il y a ce clavier-là, et il y a le BPO. Et je crois qu'il y a une consultation, si on veut, dire ce qu'on préfère.
Quand je vois les newbies autour de moi, pour faire une majuscule, plutôt que d'avoir à utiliser les deux mains et à tenir le shift plus la lettre pour la mettre en majuscule, ils préfèrent avec une main appuyer sur le caps lock, ensuite sur la lettre et réappuyer sur le caps lock pour enlever la majuscule. Et ils préfèrent ça que d'avoir à utiliser les deux mains.
Mais justement, il faut plutôt que de changer des claviers encore, faire des UV des autres claviers. Pourquoi pas tout simplement plus de formation.
Ouais, peut-être. Mais alors tu sais d'où ça vient, à mon avis,
non,
je sais d'où ça vient.
Honnêtement, John, moi qui travaille genre toute la journée en informatique, souvent j'ai mal à mes index parce que à force de faire des contrôle C, contrôle V où tu utilises toujours l'index, t'as mal au doigt à la fin. Et c'est vrai que ce serait un peu mieux de revoir où sont positionnés, pas mettre le C, le V juste à côté, le W.
Ouais, mais tu auras toujours mal au doigt. Ça sera juste un autre doigt.
Bah non, parce que justement, tu vois, genre si ton C, si le C, tu l'utilises avec ton annulaire et que le... non, l'annulaire, c'est le dernier doigt, pardon. Non, c'est le doigt avec l'anneau, oui, c'est ça. Avec ton petit doigt, t'appuies sur Shift et avec l'annulaire, t'appuies sur Q, parce que il n'est pas situé juste à côté. Enfin, honnêtement, genre, avoir à utiliser différents doigts pour différentes lettres, genre les C, les V, les Q, les T... genre les raccourcis que tu dis régulièrement, ce serait pas mal sur un nouveau clavier. Et Beppo, fait ça aussi.
Ouais, puis là tu réfléchis un peu en codeur aussi.
Mais justement, c'est là,
voilà, c'est ça.
C'est l'idée. Il faut que le clavier corresponde à la fois aux débutants et à la fois aux codeurs. Un professionnel de l'informatique, faut pas qu'il appuie toujours avec le même doigt, ça fait mal.
Est-ce que vous avez déjà essayé les claviers Beppo?
Non, moi j'ai encore jamais essayé, mais je pense que ça va faire partie de mes geekeries aussi.
Parce qu'il paraît que c'est formidable, mais c'est un gros shift, quoi, justement, en parlant. Parce qu'il faut...
Que je sois jeune pour que ma mémoire musculaire soit pas encore très en place.
Ouais, parce qu'il faut vraiment s'habituer à un nouvel... À mon avis, ça passera pas, même si c'est vachement mieux pensé pour la disposition des lettres.
Ouais, mais les mœurs, ça se change.
Ouais, ça se change, mais bon, et AZERTY, tu sais d'où ça vient.
Ouais, des machines à écrire.
Ouais, voilà. Bon, les machines à écrire, ça fait longtemps qu'il y en a plus, quoi. Et quand pour changer les habitudes des gens, c'est pas évident. Mais juste pour revenir, tu sais, tu disais que tu voyais des gens qui appuyaient sur caps pour faire les majuscules. À mon avis, tu sais d'où ça vient?
Non, vas-y.
Bah sur les claviers virtuels, sur les téléphones.
Non.
Bah c'est comme ça que tu fais.
Ah ouais.
Non?
Si tu restes appuyé sur la flèche du haut, elle reste sélectionnée.
Quand t'es sur un clavier virtuel, tu dois d'abord appuyer sur le maj ou deux fois si tu veux le bloquer, mais tu dois au moins l'appuyer une fois, puis après tu fais ta lettre, et puis après ça revient en minuscule.
Je suis pas sûr de l'explication, parce que moi, dans mes débuts, je faisais aussi du caps lock pour faire de la majuscule, jusqu'au temps que je découvre que shift plus la lettre, ça faisait la majuscule.
Ah, parce que tu savais pas appuyer deux touches en même temps, c'est ça.
Mais ça, c'est vraiment quand j'étais débutant, avant que les smartphones existent. Mais c'est possible en fait, que c'est un rôle. C'est possible. C'est pas bête comme explication même, je dirais.
Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on a appris à taper au clavier en nous expliquant comment ça marche un clavier, alors que là, les jeunes actuels, ou même toi, tu as toujours eu un clavier entre les mains, donc on t'a jamais appris comment fonctionne un clavier.
Mon grand-père m'a expliqué, tu déplaces ton curseur, tout ça, quand j'étais petit, il m'avait expliqué un petit peu, mais oui, enfin, j'ai reçu une éducation un peu plus tôt que les gens, et par un vieux. Donc, je suis pas l'exemple par rapport à la majorité. Et en plus, je suis informaticien, donc encore moins. Mais ouais, moi, je vois des filles, enfin, parce que c'est un peu moins geeky, ça appuie sur caps lock.
Ouais, parce qu'ils savent pas quand on peut appuyer sur deux touches en même temps.
Alors, est-ce que c'est parce qu'ils savent pas? Parce que dans le cas de la personne que je te parle, elle le sait. Mais c'est plus par flemme, je pense, d'utiliser les deux mains.
Ouais, mais c'est
parce
vachement
qu'ils savent
plus
pas taper, ils savent pas taper à deux mains sur le clavier.
Ouais, bah c'est ça.
Ou alors peut-être que le clavier comme le mien est foireux et que...
Non, c'est mon ordi qu'on parle.
Du coup, il tape touche après touche, quoi. Il tape pas...
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est
pour
pire.
Les mots de passe, du moins, c'est comme ça. Pour les mots de passe. Après, peut-être que pour taper, écrire des textes, peut-être qu'il appuie sur Shift.
Ah, mais si c'est le mot de passe, c'est peut-être...
Bon, enfin voilà.
Pour être sûr de voir la lumière, parce que quand
t'appuies sur non, il y a pas tout, il y a pas tout, parce que des fois c'est la lumière, elle est en haut à droite, tu sais. T'as trois petites diodes pour le mettre.
Ouais, ah oui. Il y a pas sur tous les claviers la lumière.
Et en plus.
Ah bon.
Non, moi non, sur si, le mien je l'ai pas. Sur le mien je l'ai pas.
Le Vernum, je sais jamais s'il est activé ou pas. J'ai pas la lumière sur le Vernum. Mm-hmm. Par contre, j'ai la lumière sur le Capslog.
Non, mais je l'ai sur aucun, mais là sur mon clavier.
Ah. Clavier cheap.
Non, c'est un Logitech. Bon, il n'y a pas tout neuf, mais c'est un Logitech, donc il n'y a pas. J'ai pas de candidate, mais il n'est pas si vieux. Je sais pas, il n'y a pas de date là-dessus.
Enfin, aparté. Parce que là, c'est une grosse aparté.
Ouais.
On a fait une grosse aparté sur le Mozilla Stumbler. Du coup, Fabrice, t'avais encore des choses à dire, toi?
Ouais, bah, j'avais quelques recos par rapport au dernier épisode. Vous aviez parlé de séries, et moi, je n'avais pas participé, mais je regrette pas, parce que à 4, c'était bien, quoi. Vous étiez suffisamment pour.
5, ça aurait été trop long.
Ouais, voilà, ça aurait été super long. Et puis, bah, moi, je suis pas trop série, j'ai jamais regardé Doctor Who, donc, j'ai pas voulu participer, mais bon, vous avez parlé de plein d'autres trucs qui étaient intéressants, donc moi, point de vue série, il y en a une que j'ai adorée, que j'ai regardée, c'est Black Mirror.
Ah, c'est ouf. Mais pas t'en parle, faut pas spoiler, même pas t'en parle.
Ouais, mais c'est pour ça, j'étais étonné que vous en parliez pas, parce que c'est...
Un petit synopsis.
Bah, c'est, globalement, c'est que des one-shots, donc chaque épisode n'a rien à voir avec les autres. Ouais. Et ça part sur un point technologique qui est actuel, qui existe déjà, et qui est projeté comme étant développé ou développé à son maximum.
Tu l'as vu l'épisode sur les étoiles?
Sur les étoiles.
En fait, il y a un épisode où, tout ce que tu fais, t'es noté.
Oui,
et
voilà.
Genre, tu notes tout. Oui. Et du coup, t'as des étoiles, et quand t'as pas assez de points, bah, il y a des services qui ne sont pas accessibles.
Ouais.
Il est énorme, celui-là. Je pense que c'est le meilleur qu'ils ont fait.
Ouais, il est excellent.
C'est basé sur le dark web?
Non.
Les différents niveaux de profondeur du dark web.
Non, ça part vraiment d'une technologie qui est utilisée quasiment au quotidien, où on fait plus gaffe, où justement on note tous les services avec des étoiles, ou tout, enfin on note tout et n'importe quoi avec des étoiles, et là c'est simplement qu'est-ce que ça ferait si toute notre vie était basée là-dessus, où on fait que évaluer tout le monde tout le temps, et on est tout le temps évalué par les autres. Et du coup, bah, on essaye d'être le mieux noté, et puis parfois il nous arrive des tuiles, on est moins bien noté, on est avec les gens que en fonction de leur réputation, en fait. Si t'es mal réputé, ça va me faire baisser, donc je vais pas te côtoyer. Voilà, donc ça c'était pour parler de Black Mirror, mais on devait pas en parler, mais c'est toi qui. C'est toi qui as abordé le sujet, mais bon, tous les
épisodes. Wow, c'est un petit
synopsis. Ouais, c'est un épisode. Globalement, je sais plus, il y a quoi? Il y a une dizaine d'épisodes en tout. Il y a trois saisons, je crois, il y a une dizaine d'épisodes.
Ensuite, par saison, il y a très peu d'épisodes.
Ouais. Et c'est une série britannique qui passe sur la BBC, je crois. Enfin, sur Netflix. Netflix. Mais je pense. Enfin, bref.
Ouais, ils sont diffusés sur Netflix,
Voilà.
Bon, après, l'avantage, c'est que même si tu t'as pas aimé un épisode, tu peux regarder l'autre.
Ouais, voilà. Ça va après, il y en a qui sont un peu plus violents, il y en a qui. Enfin, ils sont tous excellents. Il faut vraiment. Ils sont vraiment tous excellents.
Mais ouais, si on peut reprendre le principe de Black Mirror, c'est qu'ils prennent un petit phénomène de société qui paraît anodin, ils l'extrapolent, ils en font une société basée autour de ça. Et du coup, chaque épisode est différent. Et c'est toujours un peu en rapport avec le numérique. Et du coup, chaque épisode est très différent. Genre, je me rappelle d'un épisode où tu sais, t'as un phénomène où il se passe des choses, les gens dans la rue, plutôt que d'aller aider la personne, et ben ils vont filmer.
Ouais, ils filment avec leur smartphone, tout le monde filme.
Ouais. Et tu l'as vu cet épisode?
Ouais, je les ai tous vus. Ouais.
Il est ouf aussi, hein. Ouais. Enfin, franchement. Ouais. Et il y en a, ça te fait bader, mais tu te dis, ah ouais.
J'ai adoré celui où ils doivent pédaler pour faire du courant et ils regardent des émissions débiles et en fait en fonction du courant qu'ils ont produit ils vont pouvoir monter et vont gagner des sous pour pouvoir se nourrir, etc. Et il y a une personne qui gagne le droit de pouvoir participer à une espèce de The Voice. Tu l'as pas vu celui-là?
Non, je l'ai pas vu. C'est quelle saison?
Je crois que c'est la première saison. J'aurais pu
dire
le titre.
La première, je les ai vus.
Ouais, ouais. Enfin, ils sont tous excellents. Il y a celui aussi où, après la mort, il reconstitue la personnalité du gars en fonction de ce qu'il a laissé sur les réseaux sociaux. voire ah, même ouais, il reconstitue ouais. Ah, oui, carrément.
Vrai, ouais. Ça ressemble à Lucie,
et,
ça.
Et mon deuxième préféré, après celui sur les étoiles, là où tu notes, c'en est un où ça parle de politique. Où en fait, les mecs de la politique, enfin, en gros, le grand gagnant de la politique, le politicien le plus aimé, c'est un mec qui fait rire, tu vois, c'est genre le Cyril Hanouna des politiciens. Et tu vois, bah, en vrai, on n'est pas très loin de ça. Hein. Celui-là, il fait vraiment bader parce qu'on est vraiment pas très loin de ça. Hein. Ouais, imagine, on a Coluche qui s'est présenté, au présidentiel. Enfin, je veux dire.
Ouais, puis en plus, c'est un peu plus compliqué que ça parce que en plus, c'est une mascotte. Enfin,
ouais, c'est une personne qui. C'est un avatar, ouais.
C'est un avatar. Bon, on va arrêter là, sinon on va pas en finir.
On va parler que de Black Mirror. Ouais.
Et donc. Et la deuxième série?
Alors, la deuxième série que j'avais commencé à regarder, c'est Mr. Robot. Le premier épisode, il m'a laissé sur le cul.
Et, ou t'es KDE?
Moi, je suis gnome.
Moi, je suis Unity.
Enfin, j'étais gnome, mais ouais. Je serais plutôt gnome que KDE. Enfin, bref, pour tout geek, enfin, les personnes qui aiment bien tout ce qui est Internet, Linux, quand on regarde ce genre d'épisode, on est sur le cul, quoi, parce que vraiment, c'est assez réaliste dans ce qu'ils font au niveau piratage.
Moi qui
côtoyais un peu
le, dans mon adolescence, j'ai côtoyé un peu le piratage. Je peux dire qu'au moins quand ils font des trucs, c'est vraiment, on est vraiment très loin, très très loin de NCIS où ils sont à deux sur un clavier à taper en même temps et voilà.
Bah déjà la plupart des commandes, c'est des commandes.
Ouais,
ce petit détail.
Non. Ouais, rien que le détail de tout ce qu'ils montrent à l'écran est vrai. C'est possible. Donc vraiment le travail derrière de recherche est vraiment intéressant, Mr. Robot. J'en ai pas parlé.
Je pense pas non.
Ça faisait partie de mes séries préférées.
Par contre, au niveau de, enfin, au bout du troisième épisode, j'ai vu que ça partait en couille. Là, j'ai pas supporté. Ça devient n'importe quoi. Enfin, je suis ton père. Je couche avec ta sœur. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Non, mais j'exagère. Mais c'est un peu ça, quoi.
Non, il extrapole, mais c'est vrai
T'as la copine qui, enfin, ça devient n'importe quoi. J'ai pas supporté comment ça vire en couille, puis après j'ai lu les résumés, et puis l'histoire avance doucement, mais le côté geek est intéressant, mais après le côté histoire série, moi ça me plaît pas, enfin j'aime pas les séries pour ça, quoi. Et par contre, vas-y si t'as un petit truc à dire sur Mr. Robot.
Non, moi pour le coup, c'est Mr. Robot, je l'ai fini la première saison. Par contre, c'est vrai que j'ai eu largement du mal, mais c'est plus avec le côté.
Le côté drogue, shooté, tout ça, tout le temps.
Ouais, voilà, où tu te dis, c'est le seul côté qui est pas vraiment réaliste dans le sens où un gars qui touche autant. L'esprit clair, clairement. Mmh. C'est pas parce qu'il pense parler, là je vais spoiler, mais je suis obligé, qu'il pense parler à son père que c'est un fantôme. Il va pouvoir se rappeler des 12 000 façons de rentrer sur un système hardware, de rentrer dans un data center. ce côté-là est pas possible, quoi.
Mais par contre, du coup.
Donc, c'est vrai que j'ai du mal.
J'ai vu un film, je pense que je l'ai vu avant Mr. Robot, qui est un film allemand qui s'appelle Who Am I, qui est le sous-titre.
À Fabrice.
Ouais.
Ah, tu dis ouais, il faut vrai, ouais, ça.
Qui est d'ailleurs une commande. Hein. Et donc je pense que le jeu de mots il est pas anodin. Et le sous-titre c'est Kein System ist sicher. Donc aucun système n'est sûr. Et si vous avez aimé Mr. Robot, essayez de voir ce film. Bon, il faut le trouver en sous-titré en français ou en anglais parce qu'il est que en allemand, je pense. Bah moi je l'avais trouvé sur YouTube à l'époque quand il est sorti, ou je sais plus, il traînait sur YouTube à un moment, j'avais réussi à le voir. Mais c'est un excellent film sur le même thème, hein, vraiment sur le même thème, avec des rebondissements assez intéressants et côté geek assez intéressant.
Et puis c'est format film.
Ouais, voilà, et du coup c'est un film, donc ça tire pas en longueur sur des tas de rebondissements, de gens qui retournent leur veste trois fois, que tu sais pas si c'est des gentils, des méchants, mais qu'en fait ils sont quand même méchants.
Allez, assez d'audiovisuel. Parle-nous de visuel.
Ouais, on va parler de livres maintenant. Mais on va rester dans le même thème. Alors, je vous conseille Ernest Cline avec Player One. C'est un bouquin qui est sorti, enfin, je vais vous le dire, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, il est pas tout récent, mais il y a une adaptation en film qui est prévue par, je crois que c'est, attendez, je vais vous dire ça, par Spielberg pour 2018. Ah. Et c'est un film qui est sorti en 2011, qui raconte, je vais vous dire, dans un futur proche, le monde est en proie à de nombreux soucis, crise énergétique, désastres causés par le changement climatique, famine, pauvreté, guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système de réalité virtuelle mondiale dont toute l'humanité se sert. C'est un véritable monde parallèle. Avant sa mort, James Holliday, le créateur de l'Oasis et l'un des hommes les plus riches du monde, décide de léguer toute sa fortune à celui qui réussira à trouver les trois clés cachées dans le monde virtuel. Le livre suit l'histoire de Wade, un jeune homme de 17 ans, dans ses aventures pour trouver ce trésor. Donc en fait, c'est un jeune complètement... c'est même pas la banlieue, là. Ils habitent dans des espèces de conteneurs où ils vivent tous les uns sur les autres dans des petits trucs, dans des petits réduits. Mais par contre, ils ont la réalité virtuelle et ils vivent dans ce monde de réalité virtuelle. Et en fait, ils vont tous chercher les clés cachées et c'est à travers des tas de jeux vidéo des années 80. Il y a plein de références, tous ceux qui ont bien aimé, tous ceux qui ont la culture audiovisuelle des années 80 devraient adorer ce bouquin. Moi, j'ai vraiment adoré.
En espérant que Spielberg nous fasse une belle adaptation.
Ouais, ouais, alors ça, c'est pas évident, mais en tout cas, je vous recommande ce livre. Vous avez des questions dessus ou...
Est-ce que c'est un lien avec le magazine du même nom ?
Non, pas du tout. En fait, le titre initial en anglais, c'est Ready Player One, parce que dans les vieux jeux, c'était toujours marqué Ready Player One, ou même sur les jeux de console, en fait.
Ouais, et puis sur les jeux de café, là.
Ouais, les consoles, enfin les... Mais je vois. les arcades, les bandes d'arcade.
Les arcades.
Bandes d'arcade, ouais.
Bon, voilà. Moi, je pense que c'est bon.
Et deuxième bouquin, là, c'est un bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle de Mark Ellsberg, qui s'appelle Zéro. Et là, c'est un monde assez actuel, dans un futur proche, où il y aurait des espèces de lunettes, comme les smart glasses, où toutes les données sont centralisées et permettent d'avoir plein d'informations sur tout le monde. Et les jeunes vivent dans ce monde à fond et vendent leurs données. Et dans ce contexte-là, il y a un assassinat. Enfin, il y a des jeunes qui suivent quelqu'un dans la rue. Les lunettes leur disent que c'est quelqu'un de recherché par la police. Et le gars le suit, alors que les lunettes lui disent non, il peut être dangereux. Il suit et se fait tuer. Et du coup, c'est une journaliste qui est la mère d'une copine de ce gars qui va mener l'enquête pour savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces données et toute cette façon de gérer les big data. C'est assez sympa.
Il fait combien de pages à peu près, celui-ci?
500 pages, 512.
Ah oui! Ouais, c'est... Je pense que je vais le chercher sur MRS. Ça a l'air pas mal. Ah, je crois qu'on a perdu Morgane.
Ah oui, il a carrément disparu du Mumble.
Ah. Bon. Et
donc,
tu as des bandes dessinées aussi, apparemment.
Ouais, c'est toujours sur le même thème. Donc là, c'est une bande dessinée qui s'appelle « Dans l'ombre de la peur, le Big Data et nous ». Et là, c'est une bande dessinée qui est américaine, où il y a un journaliste qui fait une enquête sur comment les grands GAFA gèrent les données et qu'est-ce que notre vie privée risque de devenir si on laisse toutes nos données entre leurs mains.
Excusez-moi, je viens de Morocco, j'ai une grosse déconnexion, en fait je suis en train de déménager. Et j'ai plus internet et du coup ils m'ont filé un truc qui transforme la 4G en wifi là, enfin une petite galette, et elle est tombée en rate de batterie. J'ai réussi à la refaire charger 40 secondes histoire qu'elle me donne assez de wifi pour vous parler, mais là je dois déco parce qu'elle va bientôt retomber en rate de batterie. Du coup bah je vous dis au revoir en avance. Je vous laisse terminer le podcast.
Y'a pas de soucis.
Désolé, je pensais pas qu'il tomberait en rate de batterie. En plus, j'ai chargé et tout. C'est-à-dire qu'il a une autonomie de 2 heures maximum, ce machin, c'est un peu de la merde. Enfin bref. Bon, je vous dis bonne journée et bon courage, les gars.
Oui.
et puis au revoir les poditeurs, et puis oubliez pas, hein, qu'est-ce que vous feriez en l'an 1100, vous Enfin, si vous aviez un mois pour faire en l'an 1100, dites-nous dans les commentaires. Voilà, voilà, on vous aime et tout ça et tout ça. Allez, bonne journée, et je réécouterai tes recommandations parce que ça m'intéresse.
Ouais, et puis tu me poseras les questions au prochain épisode.
Ouais, ouais, on fera ça.
Ou alors tu laisses un commentaire.
Ah, grave. Allez, bonne soirée à tous, au revoir.
Bonne soirée.
Ouais, salut.
Et donc voilà, c'est la BD La Peur et Nous.
L'ombre de,
l'ombre
la, peur.
De la peur, le big data et nous.
Voilà. Ouais, bah donc ça c'est une BD que j'ai trouvée dans une médiathèque là, près de chez moi. Donc si vous avez l'occasion, si vous pouvez la trouver, vous pouvez la lire. Sinon sur le site, sur le lien qu'on mettra dans les notes, on peut télécharger une quinzaine de pages. Donc le premier
c'est
quart.
Pas mal pour se faire une idée.
Ouais, voilà le premier quart. Bon, c'est plus reportage, on va dire. Et une autre qui est là, une BD qui est en Creative Commons. C'est,
ah, ouais, et, libre téléchargement.
Ouais, voilà, qui est totalement libre de téléchargement, qui s'appelle le profil de Jean Melville, de Robin Cousin. Et j'ai fait un post sur mon blog pour décrire un petit peu... la BD, c'est pareil, c'est une histoire de lunettes connectées avec une société qui enregistre toutes les données, qui les compile et qui menace un petit peu notre vie privée. Ah. Et là, c'est plus polar.
Et c'est un one shot en BD ou...
Ouais, c'est en téléchargement, t'as 4 parties parce que c'est quand même une grosse BD, oui. Plus de 200 pages, donc c'est par c'est 50 pages à la fois, mais ça se lit bien à la file, hein. C'est une seule BD.
OK.
Voilà, donc je vous renvoie vers parce que là je crois qu'on va abréger, mais je vous renvoie vers le post de blog qui décrit un petit peu tout ça. Et puis je vous invite à les lire.
D'accord. Avais-tu un podcast ?
Alors, j'avais 2-3. Les podcasts, on en avait parlé tout à l'heure. Mais c'est pareil, d'accord. Éventuellement, je vous renvoie à un autre post sur mon blog où j'ai 2-3 podcasts à écouter, notamment une interview de Benjamin Bayard qui, justement, parle aussi de tout ce qui est surveillance, big data, terrorisme, chiffrement, renseignement, intelligence artificielle. Et c'est quelqu'un qui est quand même... Je sais pas si tu as déjà écouté un peu de conférences de Benjamin Bayard, mais...
Est-ce que c'est celle où il raconte du temps qu'il travaillait chez Numéricable ?
Je crois pas. Elle est assez récente, hein, cette interview. Elle est parue sur Thinkerview. On peut la voir sur YouTube, où elle est téléchargeable en podcast. Mais je ne pense pas qu'il parle de Numéricable dedans.
Parce qu'en fait, j'en ai écouté une, alors je me rappelle plus c'est quoi, mais en fait, ce qui m'avait entre guillemets choqué, c'est que du temps qu'il était, il bossait chez Numéricable et il avait été contacté pour je ne sais plus quelle pas organisation, mais association dont il faisait partie. En tant que...
La FDN
Ouais, je crois que c'était pour la FDN, justement. Mmh.
Donc la Fédération des... Je sais plus comment...
Réseau... Non, attends. Fédération des... Enfin, c'est pour... c'est un autre Internet. C'est pas... FAI...
Ouais, voilà, c'est fournisseur d'accès Internet.
Internet. Et donc, justement, pour l'enregistrement, je sais plus quoi, et qui, du coup, après cette intervention devant le gouvernement, je pense, ou je sais plus, mais en tout cas, des personnes placées et qui avaient été convoquées, justement, à son travail le lendemain, en lui disant « Comment ça, tu tiens des propos pro-terroristes ?» Ou je sais plus si c'était pro-terroriste ou pro-pédophile, ou je sais pas quoi, par rapport au système de données, etc. Et ça m'avait assez choqué, la manière dont ils avaient extrapolé ces propos. Mais cet homme-là, il a fait pas mal aussi de livres, de comment on appelle ça, de préfaces sur des livres de manière informatique. Il y avait hacké... Oh, je me suis lancé dans un truc où je me souviens plus.
Non, mais souvent il a pas la langue dans sa poche, et il a un discours assez intéressant, quoi. Et ouais. Enfin, comme il, c'est quand même l'un des premiers fournisseurs d'accès, enfin, historique en France. C'est, ça a toujours été une petite, d'un petit fournisseur d'accès, mais il sait exactement comment un réseau fonctionne, quoi. Et ouais. Il déconstruit généralement les discours des grandes sociétés et des grands, des politiques qui veulent nous vendre un internet un peu trop centralisé, quoi.
Centralisé et puis bien vérolé, on va dire.
Voilà. Et sinon, un autre podcast que je vous recommande, c'était une émission passée sur France Culture dans l'émission Les Nouvelles Vagues, qui était consacrée à l'héritage d'Aaron Swartz. Donc Aaron Swartz, je sais pas si tu connais.
Si, c'est le jeune homme qui est mort.
Ouais, en 2016. Ouais, non plus. Ouais. C'est un peu plus que ça.
Ah, c'était pas 2014.
Si, c'est peut-être un peu plus. Enfin, bref, il s'est suicidé à 26 ans et parce qu'il était poursuivi par la justice américaine parce qu'il avait voulu. En 2013, il est mort. Il voulait partager un peu, enfin, il voulait vraiment d'un internet libre, justement. Libre. Et donc, ça retrace un peu. En fait, ils interviewent un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Celui qui pourrait changer le monde, écrit d'Aaron Swartz. Et du coup, il reparle un petit peu de sa vie, de comment ça, les différentes phases. Enfin, c'était un génie, quoi. Je veux dire, à 14 ans, il a participé à la création des flux RSS, etc. Enfin, c'était un génie. Et oui. Il a fait bouger quand même pas mal de choses. Il était en lien avec Lessig. Je sais pas si c'est un Américain qui agit politiquement pour essayer de faire un internet décentralisé. Laurence Lessig. C'est un professeur de droit qui a été candidat aux primaires. Et puis, l'intérêt de l'émission, c'est que ça remet un petit peu en lumière par rapport à comment ça a évolué depuis, quoi, comment le monde évolue actuellement, quoi. Voilà, deux petites émissions à mettre entre ses oreilles pendant l'été.
Très bien, très bien. Bon. Et puis, je pense qu'on peut conclure là-dessus.
Bah ouais, parce qu'on commence à être fatigué, puis finalement, à 3, puis à 2, finalement, on a réussi à tenir le même temps. Mais on n'arrive pas à passer sous la barre des 2 heures, hein, pas moyen.
Non. Non, non. Trop de choses à dire. Ou alors, il faudrait en faire plus. Ou les enregistrer chacun de notre côté.
Ouais. Ah, donc, je sais pas quand est-ce qu'on peut. Je sais pas si on se retrouve avant. Toi, tu vas partir en vacances, peut-être?
Oui, moi je pars bientôt, peut-être même au moment où vous allez écouter, donc je ne sais pas, faudra voir avec les acolytes. Je sais que Monsieur Don Kluivert qui nous écoute probablement, ou probablement pas, si je pense qu'il va vérifier quand même ce qu'on a dit sur lui, quand il reviendra, moi je partirai.
Mmh. Ouais, moi je pars après autour du 15 août et puis pour 2 semaines, donc je pense qu'on va tous être plus ou moins partis.
Voilà, donc
on se retrouvera probablement tous à la rentrée, quoi.
Voilà, donc un épisode sûr à la rentrée avec tout le monde. Au mois d'août, peut-être un autre épisode avec selon la date plus ou moins de personnes. Mmh. Voilà, donc maintenant. Voilà. Donc, cher poditeur, poditrice, auditeur, auditrice, on vous dit à bientôt.
Mmh. On vous
Merci
souhaite
de vous avoir
un bon été.
Le temps de nous écouter jusqu'au bout. Ou pas.
Ou pas.
N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur johngecko.wordpress.com. Bientôt sur notre site internet ou sur Blog Linux quand l'épisode sera en ligne. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, voilà. Bye!
Salut!